Et tout de suite, le journal, Fabienne Lemoyle, Philippe Vandel.
Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Philippe.
Au sommaire de votre journal ce soir.
Les Champs-Élysées saccagés en ce 18e samedi de mobilisation des gilets jaunes, magasins pillés et incendiés comme le Fouquet's avec des manifestants qui ont mis le feu à une banque dans un immeuble dont il a fallu évacuer en urgence des habitants. 151 personnes interpellées pour l'instant et le Premier ministre venu saluer les forces de l'ordre qui jugent complices ceux qui excusent et encouragent. Autre rassemblement en ce moment à Paris, cette fois dans le calme, celui de la marche du siècle pour le climat qui a rassemblé 45 000 personnes. Marche qui arrive actuellement place de la République.
Europe 1. Et pour commencer ce journal, direction les Champs-Élysées, théâtre de violence depuis ce matin.
Des Champs-Élysées qui sont devenus un véritable champ de bataille pour le 18e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes sur place et une des images qui va rester, Jean-Sébastien, c'est cette banque à laquelle des manifestants ont mis le feu.
Exactement, des flammes qui en quelques secondes venaient lécher les fenêtres du deuxième étage où se trouvaient une femme et son bébé prises au piège avant d'être évacuées par les pompiers. 11 personnes sont blessées. Rania, une habitante du quatrième étage, a dû quitter l'immeuble précipitamment.
Des enfants qui criaient, des enfants avec des masques d'oxygène, c'était effrayant. Et je ne me rendais pas compte, les gens dans la rue, ils faisaient le signe « sortie, sortie ». Mais c'était les gilets jaunes, je pensais qu'ils allaient sortir pour nous faire mal. Donc on n'a pas compris qu'il y avait le feu en bas, on ne savait pas. Ces gilets jaunes, c'est la merde. J'étais avec eux au début. En plus, il y a les gens qui disent « c'est bien, ils ont brûlé les riches ».
Les casseurs s'en prennent à ce qu'ils considèrent être les symboles du capitalisme. Boutiques de vêtements sont dévalisées, d'aventures de banques détruites ou taguées. Les restaurants du Fouquet's a été saccagé, table retournée, vitrine cassée. Victor, un gilet jaune, dit ne pas cautionner tout en justifiant.
Je n'approuve pas ça, ça c'est plus symbolique qu'autre chose. Quand on voit ça, ils s'en prennent à la finance, ils s'en prennent à la richesse. Parce que bon, le Fouquet's quand même, c'est pas le smicard qui vient boire un coup ou manger là-dedans.
Les casseurs sont même revenus à la charge. La tente du restaurant a été incendiée, tout comme 4 des kiosques à journaux qui jalonnent les Champs-Élysées.
Jean-Sébastien Soldaini en direct des Champs-Élysées à Paris pour ce reportage, on vient de l'entendre, qui permet de prendre la mesure des dégâts. On retrouve dans le secteur un autre reporter d'Europe 1, Jean-Jacques Héry. Où en est-on actuellement ?
Eh bien, l'évacuation des Champs-Élysées est maintenant quasiment terminée. Une évacuation qui a commencé vers 16h30, menée par les forces de l'ordre depuis la place de l'Étoile, en descendant l'avenue, avec un canon à eau qui arrosait largement les manifestants et éteignant au passage les feux allumés au milieu de la rue. Les gilets jaunes sont maintenant dans les rues adjacentes. Toute l'après-midi a régné ici une grande confusion. Une partie de la foule est restée statique à certains endroits, pendant que d'autres manifestants, eux, bougeaient au gré des déplacements de la police, comme le raconte Christophe.
Et puis quand il y a du monde, évidemment, quand il y a du monde, y en a qui provoquent un peu, ils tirent des gaz lacrymogènes, les gens se séparent, ça revient et ainsi de suite. Ce n'est que ça en vérité.
Et c'est au milieu de l'avenue que les affrontements police-manifestants étaient le plus impressionnants. Jets de pierre ou de bouteilles d'eau d'un côté et très nombreux tirs de grenades lacrymogènes de l'autre. C'est simple, c'était un brouillard de lacrymogènes qui flottait ici tout à l'heure dans une ambiance sporadiquement très tendue. Certains gilets jaunes étaient d'ailleurs groggy en cette fin de journée, comme Abel qui s'avouait un peu sonné.
Il y avait beaucoup de gaz, ils nous ont beaucoup gazé, on fait avec, on essaie de se protéger comme on peut, on n'a pas le droit d'avoir de masque ni de lunettes, mais eux sont vachement bien équipés, voilà quoi. Donc on a assisté à des tristes scènes, ils ont mis le feu un peu partout, c'est incroyable, on a l'impression d'être dans un autre monde, on ne reconnaît plus du tout les Champs-Élysées.
Mais malgré tout, la détermination des personnes avec qui j'ai pu discuter est intacte. Tous m'ont dit que s'il fallait descendre dans la rue la semaine prochaine, ils le feraient.
Jean-Jacques Héry, notez que ce soir, on parle pour l'instant, selon les informations du service police-justice d'Europe 1, de 151 interpellations.
Édouard Philippe s'est rendu sur place pour saluer les forces de l'ordre.
Le Premier ministre avec à ses côtés le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Édouard Philippe qui a dénoncé ces violences.
C'est inacceptable. Je suis venu ici formuler mon soutien très grand aux forces de l'ordre, aux sapeurs-pompiers qui, par leur travail ce matin, ont permis d'éviter le pire à l'occasion d'un incendie qui avait été déclenché par les casseurs. Je suis venu donner des consignes de très grande fermeté afin que tous ceux qui se livrent à ces actes inacceptables puissent être présentés devant des tribunaux, être jugés et être sévèrement punis. Notre objectif est un objectif de totale fermeté. Nous faisons face à plusieurs centaines, plusieurs milliers à certains égards, de personnes très déterminées qui sont là pour créer le désordre et pour commettre les actes que je viens dénoncer. Force restera à la loi et restera toujours à la loi, c'est le sens de la démocratie. Et c'est le sens de la République.
Édouard Philippe qui réagissait cet après-midi après les violences qui ont donc marqué ce 18e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Et alors que l'opposition monte au créneau pour dénoncer le manque de réaction du gouvernement, on écoute Gilles Platret, le porte-parole des Républicains.
Lorsqu'on a un pays dans une tension extrême, dont on sait que week-end après week-end, des bandes organisées qui n'ont rien à voir avec le fond de la revendication populaire sont prêtes à prendre d'assaut tous les symboles de la République, les symboles de l'économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, eh bien, on ne devrait pas avoir un président de la République qui va au sport d'hiver et un ministre de l'Intérieur qui va draguer en boîte. Excusez-moi d'être un peu vulgaire, mais c'est quand même le sentiment qu'on a. Donc non, ils ne sont pas à leur place. Monsieur Macron devrait être à Paris, Monsieur Castaner devrait être concentré sur sa mission. C'est une faillite et nous appelons donc à un sursaut de la part de ceux qui ont le moyen d'agir, c'est-à-dire le gouvernement.
Gilles Platret, le porte-parole des Républicains en micro d'Aurélie Herbemont, qui faisait référence au séjour à La Mongie actuellement du président Macron. Concernant le nombre de manifestants pour ce 18e samedi de mobilisation qui voulait marquer le coup de la fin du grand débat national, seul décompte officiel à la mi-journée du ministère de l'Intérieur, 14 500 manifestants à travers toute la France, 7 à 8 000 à Paris, dont selon Christophe Castaner, 1 500 ultra-violents.
Autre mobilisation dans le calme cette fois, la marche du siècle pour le climat. Nous serons place de la République dans un instant.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Il est 18h09, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle, Philippe Blondel.
Nouvelle mobilisation pour le climat cet après-midi à Paris.
Une mobilisation au lendemain de la grève mondiale qui a réuni près de 170 000 jeunes dans la rue à Paris hier. Aujourd'hui, ce sont près de 140 associations qui appelaient à la marche du siècle dans une ambiance nettement plus apaisée que celle qu'on évoquait en début de journal. Une marche qui a réuni 45 000 personnes, selon le comptage du cabinet Occurrence pour un collectif de médias dont Europe 1. Une marche qui a converger vers la place de la République où vous vous trouvez, Claudia Betram.
Oui, il y a énormément de monde ici, place de la République. En début d'après-midi, le cortège s'était lancé place de l'Opéra. Parmi les manifestants, Claire et sa fille Anaïs, de 12 ans. Toutes les deux brandissent leur pancarte. Pas de nature, pas de futur. Pour la mère comme pour la fille, il est temps d'agir.
C'est important parce que c'est l'avenir de ma fille et de mes enfants. Que faut faire comprendre aux politiques que ça suffit pas les petits pas de chacun et qu'il faut qu'ils passent à l'action.
À la même époque, l'année dernière, on avait de la neige et là, il fait beau, il fait chaud. Je pense que c'est mal parti. La Terre, elle est en train de mourir.
Malgré son pessimisme, c'est dans la bonne humeur que la collégienne défile. Les manifestants ont marché dans le calme, brandissant pancartes et scandant des slogans, comme Armelle, parisienne d'une quarantaine d'années, qui salue une marche pacifique.
C'est bon enfant et c'est effectivement une volonté d'exprimer un ressenti collectif fort et dans une ambiance où on n'a pas du tout de revendications, même contre un gouvernement Macron. Il faut que tout le monde s'y mette.
Et ici, place de la République, la marche se termine en musique. Une scène a été installée. Certains manifestants se sont assis par terre pour écouter les concerts qui viennent de débuter.
Claudia Bertram, en direct de la place de la République à Paris.
Bien noté que je recevrai vers 19h15 Jean Jouzel, l'ancien vice-président du GIEC, qui arrivera justement de la manif. Tout à fait autre chose, on part en Nouvelle-Zélande, où l'extrémiste de droite australien qui avait ouvert le feu sur les fidèles de deux mosquées de Christchurch, officiellement inculpé de meurtre.
Inculpation lors d'une brève audience où Brenton Tarrant est resté impassible, mais où il a clairement affiché ses sympathies néo-fascistes en faisant un geste de la main, symbole des suprémacistes blancs. Cette tuerie qui a fait 49 morts a relancé le débat sur le port d'armes en Nouvelle-Zélande, car l'assaillant avait un permis qui lui a permis d'acheter un véritable arsenal. Et pour la première ministre néo-zélandaise, il faut clairement durcir la loi.
Je tiens à remercier tout particulièrement ceux qui ont pris part aux opérations. Vous avez sûrement vu les images de l'interpellation et je ne peux que la décrire comme un acte de bravoure au nom de tous les Néo-Zélandais, un acte pour lequel ils ont mis leur propre sécurité personnelle au second plan. Je suis sûre que tout le monde en Nouvelle-Zélande tient à remercier la police et en particulier l'agent qui a procédé à cette arrestation.
Jacinda Ardern qui s'exprimait après cette tuerie en Nouvelle-Zélande et qui rendait à l'instant hommage aux trois hommes qui ont permis de stopper ce carnage qui a fait au final 49 morts.
C'était le journal de Fabienne Lemoal. Merci beaucoup Fabienne.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h12.
Et la météo, c'est maintenant avec vous Valérie Darmon. Bonsoir. Demain, pluie et vent sont déjà de retour.
Et oui Philippe, ce week-end, ce n'est pas fromage et dessert, c'est l'un ou l'autre, comme le disent certains d'entre nous. On a donc eu du soleil aujourd'hui, et bien demain, c'est le retour du temps de chien. Un peu moins tout de même que cette dernière semaine, restons optimistes. Un nouveau front froid traverse le pays à partir de ce soir, d'ouest en est, avec des pluies qui vont progresser du nord-ouest aux régions centre. Sous ces pluies soutenues, le vent va souffler de nouveau, entre le nord des Alpes et le Jura. Des Pyrénées aux Alpes, il va pleuvoir aussi avec beaucoup de neige des 1200 mètres sur les reliefs. Près de la Méditerranée, Mistral et Tramontane se lèvent, soufflent fort et dégagent votre ciel. Et avec le passage de ce front froid, la fraîcheur se réinstalle. On va repasser 2 degrés sous les normales de saison, alors qu'aujourd'hui on était bien au-dessus, avec des maximales comprises entre 8 et 18 du nord au sud. En revanche, la douceur va se maintenir au sud de Lyon, avec 18 degrés.
Merci pour cette douceur. À tout à l'heure Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Avec vous, Cyril de la Morinerie, bonsoir, le journal
bonsoir.
Des sports. Ouais. Le 15 de France, c'est du rugby qui évite de peu l'humiliation.
Et oui, les Bleus ont battu l'Italie à Rome cet après-midi en clôture du tournoi des 6 nations, mais cette victoire 24 à 14 est un succès en trompe-l'œil. Les Bleus ont souffert face à la plus faible équipe du tournoi, confirmant leur grande difficulté du moment, confirme donc l'arrière Maxime Médard.
Honnêtement, oui, on a eu beaucoup de lacunes sur ce match, on a failli le perdre. Je pense qu'il faut souligner le caractère de notre équipe qui a rien lâché. C'est sûr qu'il y a beaucoup de travail encore à faire en vue de la Coupe du Monde, mais voilà, c'est un match gagné, mais c'est en souffrance. On manque de confiance, on a eu du mal à mettre notre jeu en place. On n'était pas à notre meilleur niveau.
Maxime Médard avec Simon Rubin, un tournoi destination remporté par le Pays de Galles qui réalise le grand chelem, succès des Gallois face à l'Irlande 25 à 7. L'Angleterre affronte depuis quelques minutes son voisin écossais. Puis il y a également du top 14, 19e journée, Toulon-Montpellier. Toulon mène 15 à 7. C'est le début de la seconde période. Trois autres matchs viennent de débuter. Castres-Perpignan, Grenoble-Racing et Agen-La Rochelle.
On va passer au ski maintenant avec Alexis Pinturault, le Français au sommet pour clore cette saison.
Le Français de 27 ans a remporté son premier géant de la saison à Andorre. Un succès qui lui assure la deuxième place au classement général de la Coupe du Monde. Premier temps de la première manche, le skieur de Courchevel a fini en patron cette course. Il retrouve ainsi avec plaisir les sommets dans une discipline dominée par l'Autrichien Marcel Hirscher. Alexis Pinturault.
C'était un peu aussi l'objectif de l'année, remonter sur la plus haute marche. Alors c'est sûr qu'il a fallu attendre la dernière, mais c'est un peu le point sur le i pour finir. Exactement, la deuxième manche, c'est important de très bien partir. Avec le dernier mur, c'était forcément un peu plus compliqué. Et je lâche un peu trop tôt. Mais voilà, sans incidence, et de toute manière, j'avais aussi un peu d'avance, donc je pouvais légèrement contrôler si le reste de la manche était bonne.
En revanche, en biathlon, au championnat du monde en Suède, rien ne va plus pour Martin Fourcade. Le quintuple champion olympique a plombé le relais cet après-midi. Après les trois premiers relayeurs, la France était en course pour le bronze. Mais Martin Fourcade s'est complètement raté sur le tiers debout. Les Bleus finissent sixième.
Cyclisme avec le Paris-Nice qui passait aujourd'hui par le mythique col du Turini, cher au pilote du rallye de Monte-Carlo.
Ouais, et victoire du Colombien Daniel Martinez. Le premier français, c'est Nicolas Hédé, troisième. Un Paris-Nice qui s'est joué au sprint, Axel May.
Oui, la Colombie au pouvoir, résument les organisateurs de Paris-Nice. Daniel Martinez, natif de Bogota, a remporté sa plus belle victoire chez les professionnels. Martinez a devancé au sommet du Turini son compatriote Miguel André Lopez, un autre Colombien, sans doute le plus prometteur de tous. Egan Bernal en a profité pour prendre la tête du classement général. À 22 ans, Bernal, coureur de la Sky, que le grand public a découvert l'an dernier sur le Tour de France aux côtés de Froome et Thomas, est bien parti, semble-t-il, pour remporter son premier Paris-Nice. Quant à Romain Bardet, encore en période de préparation, il est ce soir 6e du général et espère sans doute que la vérité du mois de mars ne sera pas celle de juillet, à savoir une domination des Sky.
Axel May, on termine par du football. D'abord pour vous dire que l'effet Zidane marche toujours. Premier match sur le banc du Real Madrid après une parenthèse de 9 mois et première victoire contre le Celta Vigo 2-0.
C'est
extraordinaire. Tous ses choix sont gagnants. Un but disco sur une passe de Benzema et but de Gareth Bale.
Et fait jouer ses potes qui étaient un peu mis à l'écart.
Mais complètement, c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. Voilà, il fallait qu'il revienne et ça a marché. Et puis ce soir, on vous donne rendez-vous dès 20h avec Lionel Rosso pour le multiplex. 4 matchs au programme. Caen Saint-Etienne, Guingamp Dijon, Angers Amiens et Nîmes Strasbourg.
C'était le journal des sports. Merci beaucoup Cyril de la Morinerie. À tout à l'heure.
Europe 1.
Les Champs-Élysées saccagés, des magasins vandalisés, les kiosques incendiés. On pensait que ces images appartenaient au passé, mais voilà qu'aujourd'hui, les casseurs se sont à nouveau invités en nombre dans les cortèges des Gilets jaunes. On parle de ce regain de violence dans un instant avec Eddy Cid. Il est porte-parole du syndicat Unité SGP Police FO.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1. 18h19, vous écoutez votre grand journal du soir qui se poursuit avec vous, Philippe Vandel, et votre premier invité. On va bien sûr parler de ce qui s'est passé aujourd'hui sur les Champs-Élysées.
Alors qu'on disait le mouvement proche de la fin, le 18e samedi des Gilets jaunes a montré des violences renouvelées et inédites. Une agence bancaire a été incendiée, avenue Franklin Roosevelt. 11 blessés, dont 2 policiers et 2 personnes qui ont été sauvées par les pompiers. Une femme était bloquée à l'étage avec son bébé. Bonsoir Eddy Cid.
Bonsoir à vous.
Vous êtes porte-parole du syndicat Unité SGP Police FO. Première question, comment avez-vous vécu cette journée ? Quelles dernières informations avez-vous au sujet de vos collègues blessés ?
Alors mes collègues qui ont pu effectivement tirer la personne donc, de l'incendie dans le bâtiment vont bien. Il s'agit des collègues de brigade anticriminalité qui ont été surtout intoxiqués par l'émanation effectivement des fumées. Première chose, seconde chose, nous avons vécu la journée, c'était malheureusement tellement prévisible. On était en face de tout sauf des gilets jaunes. Dès 11h du matin, on avait déjà des jets de cocktails Molotov sur les forces de l'ordre.
Ouais.
On avait effectivement...
Je vous interromps pour expliquer que d'habitude, pardon pour ce mot d'habitude, quand il y a eu des incidents, c'était en fin de cortège. C'était des casseurs qui venaient se mêler, tandis que là, ça a attaqué à 11h par de la casse.
Exactement, pour vous expliquer un peu la stratégie de la préfecture de police de Paris, on faisait des manifestations assez longues, des cortèges de 12 à 14 km qui permettaient d'évincer le cortège progressivement les gens et surtout, on est autour de 19h à la fin de la journée, de pouvoir, on avait quelques intrusions de quelques black blocs, mais c'était relativement on va dire épisodique comme incident. Malheureusement, là, dès le début de matinée, c'est-à-dire qu'avant midi, on a eu plus d'interpellations que les autres week-ends, par exemple, on a eu beaucoup de collègues blessés, on a eu des images assez flagrantes en termes d'un côté belliqueux des choses, c'est-à-dire qu'on avait des personnes qui déchaussaient des pavés de la voie publique pour les utiliser comme projectiles sur les forces de l'ordre. Sachez que ces pavés sur les Champs-Élysées font entre 3 et 5 kilos. Donc imaginez-vous l'arme par destination qu'ils peuvent être. Donc on a eu beaucoup d'incidents, on a eu des jets de cocktail Molotov, on a eu de tentatives d'intrusion dans l'Arc de Triomphe. Ça n'a pas été le cas parce que rapidement, les forces de l'ordre, mes collègues, ont rapidement effectivement évincé ces personnes-là et ont repoussé le flux des pseudo-manifestants, si je puis dire, qui étaient présents. Et donc, du coup, ça a été très compliqué toute la journée. C'était le jeu du chat et de la souris sur les champs.
On s'attendait, on le savait dès vendredi soir, enfin, des black blocs étaient annoncés. Sur un site de l'ultra-gauche, on pouvait lire ces mots: quel plus beau printemps que celui où finit l'économie. Et ils ont saccagé des boutiques de luxe, tel le symbole que ça représente, comme le restaurant, le Fouquet's, symbole de la restauration et de l'hôtellerie de luxe. Est-ce que, connaissant ceci, selon vous, les forces de l'ordre ont été débordées ou est-ce que, de toute façon, ce genre de violence est impossible à contenir ?
Alors, il y avait une stratégie, effectivement, qui était escalée. Ce qui est certain, c'est qu'on avait plusieurs manifestations sur Paris. Donc c'était compliqué aujourd'hui de pouvoir tout sécuriser. On avait déjà la manifestation sur le climat où il y avait 45 000 personnes, ce qui est énorme.
Hein. Dans le calme. Qui est allé de l'Opéra à République.
Qui s'est très très bien passé. Et l'idée effectivement centrale de tout ça, c'était qu'il n'y ait pas d'intrusion de ces gens issus de l'ultra-violence dans ces cortèges-là où il y avait des familles, on a vu des poussettes, des enfants, des gens à vélo. Enfin voilà, des simples citoyens qui avaient le droit, qui profitaient du droit de manifester, qui est tout à fait légitime aujourd'hui en France. Et donc on avait ces gens-là et on avait une autre manifestation, effectivement, on n'est pas forcément d'accord avec nous, les forces de l'ordre, mais sur les pseudo-violences policières qui aussi relativement bien passé. Le problème, c'est qu'une fois de plus, les Gilets jaunes et certains leaders qui ont une forme éruptive, effectivement, de contestation, si je puis dire, et un langage très belliqueux, n'avaient décidé de ne pas laisser de préavis, effectivement, ou de parcours exhaustif à la préfecture de police de Paris. Donc on ne pouvait sécuriser ces manifestations.
C'était comme au premier samedi, la manif n'était pas déclarée, le parcours était non déclaré.
Il n'y avait rien de déclaré. C'est pour ça qu'il a fallu un peu de temps à mes collègues des forces de l'ordre pour effectivement sécuriser les Champs-Élysées, parce qu'au début, les fameux d'art, dispositif d'action rapide qui existe. Alors pour nos auditeurs, il s'agit quoi ? Il s'agit donc de collègues, effectivement d'une vingtaine de policiers, issus souvent des brigades anticriminalité ou des compagnies de sécurisation d'information, de sécurisation, qui du coup, effectivement peuvent rapidement se déplacer et peuvent intervenir à tout point de la capitale. Et le problème, c'est qu'ils étaient éparpillés sur toute la capitale, parce qu'on ne savait pas où allaient intervenir les Gilets jaunes. Je rappelle qu'on a eu des week-ends où ils avaient été dans un rendez-vous à Versailles, on les avait eu à Montmartre.
Certains syndicats de policiers, des confrères à vous, ont dénoncé la polémique sur les LBD, les lanceurs de balles de défense. Ils n'ont pas été interdits, mais si j'ai bien compris, ces LBD ont été redimensionnés, remplacés par un dispositif moins puissant, surtout moins efficace à longue distance, ce qui fait que les casseurs sont aujourd'hui plus proches. Est-ce que vous confirmez ces infos ?
Alors, il s'agit, je les confirme, il s'agit des cartouches en fait. Donc exactement les cartouches, aujourd'hui on avait moins effectivement de potentiel, effectivement de distance possible où on pouvait les atteindre.
Ouais.
Donc ça a permis d'ailleurs joueurs, alors on n'a pas eu effectivement de personnes éborgnées, si je puis dire, mais une fois de plus, on a eu beaucoup plus de casses, on a eu beaucoup plus de dégradations, on a eu beaucoup plus de blessés du côté des forces de l'ordre, et on a eu effectivement un sentiment de gâchis complet sur les Champs-Élysées, parce que aujourd'hui, on essaye de tout faire pour essayer quelque part de jouer les jeux. Il y a une, vous savez, il y a une, la doctrine du maintien de l'ordre a beaucoup évolué ces derniers temps, ces 4 derniers mois, beaucoup plus que ces dernières années. On était sur une politique effectivement du maintien de l'ordre où c'était assez basique, assez quelque part stoïque, et aujourd'hui on a mis en place mobilité, réactivité, parler d'art, tout ça, et cela n'empêche pas, on a même mis des caméras sur les LBD, mais on a des personnes aujourd'hui qui sont quelque part dans la théorie l'excuse permanente. J'aimerais bien que par exemple le défenseur des droits qui passe son temps à parler aux yeux de la police à tort et à travers, j'aimerais bien que je lis sur le défenseur du droit des policiers.
J'allais vous en parler, le défenseur des droits, puisque vous le citez, Jacques Toubon, a réclamé cette semaine l'interdiction des LBD. Qu'avez-vous à lui dire? C'est pas un dangereux gauchiste.
Non, effectivement, j'ai pas d'avis à avoir sur le monsieur, mais ce qui est certain, c'est que...
Sur son argument.
Ou sur sa fonction, sur son argument. Par contre, ça, c'est tout à fait un autre débat. Je vous remercie de me prêter l'occasion de le faire. Je vous cache pas qu'on est en face d'une personne qui, aujourd'hui, dans une théorie, l'excuse permanente, on est en face d'un idéologue coupé des réalités, je pèse mes mots. C'est gentil, effectivement, d'avoir cette doctrine de l'excuse en permanence, mais il faut sortir cette vision manichéenne qui est la sienne. Il n'y a pas des méchants policiers et des gentils manifestants. On l'a vu aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Donc ce qui est certain, c'est que la violence aujourd'hui dessert ce mouvement des Gilets jaunes. Et pourquoi? Parce que quand on parle de la violence, on ne parle pas des revendications légitimes de ces Gilets jaunes et de la crise qui est la leur.
Alors là, je reste cantonné à ce qui s'est passé, ce qui a été commis par les casseurs. Je l'ai dit, une agence bancaire a été incendiée, Franklin Roosevelt. Deux personnes sauvées par les pompiers, une femme bloquée à l'étage avec son bébé. Normalement, un incendie volontaire qui met des vies en danger, c'est 10 ans de prison. À votre connaissance, sur les samedis précédents, est-ce que des incendiaires, parce qu'il y a déjà eu des feux, des tentatives d'incendie, ont déjà été arrêtés les samedis précédents?
Il y a eu des arrestations. Il y a eu des arrestations. Mais c'est aujourd'hui la réponse, il y a une triptyque sur cette réponse. Effectivement, la réponse, elle est d'abord conjoncturelle. C'est la réponse, elle est sécuritaire avec un grand nombre d'interpellations et l'appréhension de ces individus aujourd'hui qui commettent ces méfaits. Première chose, il y a une autre effectivement réponse qui est une réponse judiciaire où l'on doit condamner, mais on sait qu'il y a eu très peu de condamnations parce qu'il y a des black box qui sont des professionnels du désordre et qu'on arrive difficilement à interpeller, et on a souvent des gilets jaunes qui par effet de suivisme se retrouvent effectivement interpellés, mais ils ont commis
des infractions. On dit que les black box commettent l'infraction et partent avant, que c'est un pauvre gilet jaune innocent qui se fait frapper à sa place.
Alors pour avoir
où
vu,
est-ce que je caricature?
Alors, vous caricaturez un peu, mais c'est normal, c'est ce qu'on vous a raconté.
Mais vous qui êtes sur le terrain.
Alors exactement, moi j'ai vu ces personnes en garde à vue. Il s'agit de personnes qui étaient porteuses par exemple de visseuses, des visseuses. Donc c'était pour démonter du mobilier urbain et l'utiliser par arme par destination. Voilà ce qu'on a eu en garde à vue. Il s'agit de certains gilets jaunes. C'est des gilets jaunes minoritaires, je tiens à le préciser, mais c'est des gilets jaunes quand même. Maintenant, ce qui est certain, c'est que la réponse, elle sera que au niveau structurel, politique. Aujourd'hui, nous ne pouvons apporter qu'une réponse conjoncturelle.
Dernière question, que vous inspirent les images du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, en boîte de nuit? J'en parlerai pas si ce n'était pas un samedi soir après une manifestation des Gilets jaunes.
Alors écoutez, la vie personnelle de M. Castaner ne nous regarde pas ou pas et surtout ne nous intéresse pas. Ce qui est certain, c'est qu'on salue aujourd'hui le passage donc, du Premier ministre auprès des forces de l'ordre. Certains médias n'ont pas compris l'enjeu de la chose. Je pense qu'il n'a pas forcément fait pour l'ensemble des Français, mais surtout pour les policiers qui étaient présents. Il a montré qu'il était au plus près des policiers, effectivement, aujourd'hui, dans un jour où il y a eu beaucoup de blessés.
Merci beaucoup. Et d'ici, je rappelle que vous êtes porte-parole du syndicat Unité SGP Police FO.
Europe 1.
Mon prochain invité est dans les starting blocks, c'est le cas de le dire. La saison 2019 de Formule 1, c'est tout à fait autre chose, redémarre ce week-end avec le Grand Prix d'Australie à Melbourne. Année après année, l'écurie Renault F1 se rapproche du haut du classement. Justement, on en parle avec le patron Cyril Abitboul dans un instant.
Europe 1. Il est tout juste 18h30, la suite de votre grand journal du soir, c'est avec vous Philippe Bandel.
Et c'est maintenant le rappel des titres avec Chanel Petit, bonsoir Chanel.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Le déplacement d'Edouard Philippe au commissariat du 8e arrondissement de Paris, celui des Champs-Élysées, le Premier ministre souhaitait remercier les forces de l'ordre. Elles s'opposent depuis la fin de la matinée maintenant à des casseurs qui ont infiltré la manifestation des Gilets jaunes. Ceux qui excusent, qui encouragent, se rendent complices, a déclaré Edouard Philippe. Des magasins ont été pillés, certains incendiés, 151 personnes ont été interpellés, on dénombre 45 blessés. L'autre mouvement aujourd'hui, c'est celui des défenseurs du climat. 45 000 personnes à Paris, selon le comptage du cabinet Occurrence pour plusieurs médias, dont Europe 1, marche destinée à critiquer l'inaction du gouvernement en matière d'écologie. C'est Raphaël Glucksmann qui mènera la liste socialiste lors des prochaines élections européennes. Il a été désigné par le PS à la mi-journée. Le fondateur du mouvement Place Publique devra en échange placer quelques candidats socialistes dans sa liste.
Merci beaucoup Chanel, à tout à l'heure pour votre journal complet à 19h.
Europe 1.
Et la météo, c'est maintenant avec vous Valérie Darmon. Demain sera nettement, si j'ai bien compris, nettement plus agité qu'aujourd'hui.
Absolument, une perturbation pluvieuse accompagnée de vent jusqu'à 60-80 km/h en pointe va traverser le nord-ouest de la France demain matin. Vers la mi-journée, ce temps perturbé va toucher toutes les régions allant de la Lorraine à la Nouvelle-Aquitaine. Et l'après-midi, le ciel couvert et les pluies vont gagner les frontières de l'Est. Les précipitations seront plus marquées sur le relief avec de la neige aux alentours de 1400 mètres et puis 1000 mètres d'altitude. Et après ce passage pluvieux, le temps va rester maussade partout, sauf dans le sud-est. Ces giboulées de mars vont s'accompagner de tonnerres, de grésils ainsi que de rafales de vent par endroits, notamment le long de la Manche. Les minimales, 3 à 8 degrés en général, 6 à 10 près de la Méditerranée. Les maximales en baisse, 9 à 15 en général, 15 à 21 du Lyonnais à la Méditerranée.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Bonne fin de journée avec Europe 1 et Philippe Vandel. Une fois n'est pas coutume, votre prochain invité Philippe n'est pas avec nous et vous avez enregistré cet entretien lundi avant son départ en Australie.
C'est reparti, la saison 2019 de Formule 1 redémarre ce week-end avec le Grand Prix d'Australie à Melbourne. Bonsoir Cyril Habitboul.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général de Renault Sport, le boss de l'équipe Renault Formule 1. Renault est revenu en F1 il y a 3 ans. Au classement des constructeurs, vous avez été 9e en 2016, 6e en 2017, puis 4e cette année. La saison commence donc ce week-end. Vous nourrissez quels espoirs ?
Vous avez parlé de la progression qu'on a eue depuis 3 ans. Peut-être le premier espoir, c'est que cette progression, elle se maintienne, elle se poursuive. On sait que ça va être compliqué parce qu'on est quand même dans un environnement ultra concurrentiel avec des top teams qui sont des mastodontes, hein, Mercedes, Ferrari, Red Bull, encore difficile de savoir dans quel ordre. Un milieu de grille qui est très compliqué, qui est très compétitif avec des écuries qui sont maintenant devenues des organisations satellites des plus grosses écuries. Donc ça fait un univers concurrentiel un petit peu complexe, mais évidemment, nous, si on a décidé de participer en 2015, c'est pour se battre au premier plan. Ça va prendre quelques années. Donc je dirais qu'il faut manager les attentes, les ambitions et puis maintenir cette progression et satisfaire un peu tout le monde, les médias, les fans, nos pilotes. On a un niveau de pilote extraordinaire.
Grande nouveauté, l'arrivée de Ricciardo. Je précise pour ceux qui ne suivent pas la F1 au jour le jour, c'est un top driver qui a déjà remporté 7 victoires en Grand Prix, que vous avez piqué à Red Bull. Qu'est-ce que ça va changer dans une équipe comme la vôtre ?
Bon, déjà, c'est un talent extraordinaire en piste. Il y a absolument aucun débat là-dessus. Il sait bien se qualifier. Il est ultra propre. Très certainement, le meilleur dépasseur, best overtaker de la grille, comme on dit en anglais avec mon accent. Au-delà de ça, il faut un petit supplément humain. Et je pense que Ricciardo a la capacité de nous apporter ce petit supplément d'âme qui peut apporter cette étincelle et faire exploser ce mélange, mais dans le bon sens. En plus, ça donne encore une fois, ça donne la niaque.
Il y a une nouvelle réglementation cette saison avec des ailerons avant plus grands. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, juste dire que ça a été conçu par la fédération, par les organisateurs pour offrir plus de dépassements pour que la voiture qui en suit une autre ne soit pas pénalisée par les turbulences. Alors, est-ce que c'est ce que vous avez constaté sur la piste ? Ou est-ce que c'est comme l'an passé ?
Alors très bon résumé effectivement de l'intention. Le problème en Formule 1, c'est qu'on n'est jamais certain entre une décision et ses conséquences et les fameuses unintended consequences. Les premiers retours que j'ai eus de nos pilotes, Ricciardo et Daniel et Nico, sont plutôt quand même que ça paraît plus facile de se suivre que les années précédentes.
Alors cette année, il y a une nouveauté du côté des médias, c'est que Netflix a investi la Formule 1. Ils ont filmé sur tous les circuits la saison passée, la saison 2018, pour en tirer une série en 10 épisodes absolument passionnante. On voit pour la première fois les coulisses, les choses que la télé ne voit pas, et tout est vrai. Vous êtes l'une des vedettes de l'épisode 4. Vous êtes au cœur de l'écurie Renault. Je vois faire une drôle de tête. Vous avez vu la série ou au moins cet épisode ?
Alors j'ai vu cet épisode intitulé en français « L'art de la guerre ».
Ouais.
C'est vrai qu'il y a de la guerre. Il y a de la guerre sur la piste, il y a de la guerre en dehors de la piste.
Alors le boss de Red Bull, dont vous étiez l'équipementier moteur la saison passée, Christian Horner, dit de vous « Les relations avec Cyril sont difficiles, il est émotif, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Est-ce que vous confirmez ?»
Bah, disons que peut-être que oui, je suis émotif et c'est bien d'une certaine façon qu'il y ait des émotions. Je pense que je suis d'un tempérament latin en plus d'être français. Mais moi, au moins, je suis pas drivé uniquement par l'argent. Alors effectivement, Horner, on sait par quoi il est drivé.
Justement, il vous parle d'argent.
Exactement.
Quelques heures après que vous lui ayez piqué son pilote, donc je l'ai dit, le grand Daniel Ricciardo, il vous demande, de manière un peu ironique, il sait pas qu'il est filmé, t'as mis tout ton argent pour le pilote, est-ce qu'il t'en reste pour le moteur ? Et vous lui répondez, j'en ai plein. C'est de la provoque.
Oui, c'est de la provoque et c'est typiquement parfois ce que je peux un peu regretter sur cette série Netflix qui capture certaines choses et qui peut les ressortir un peu d'un contexte global. Pourquoi ? Parce que on parle d'argent parce que Renault a une image et une réputation de ne pas avoir les moyens de ses ambitions en Formule 1.
Ben vous l'avez dit.
Et c'est exactement effectivement un moment ce qu'il a fallu rétablir comme vérité, c'est que Renault appartient à un grand groupe automobile. Red Bull nous a beaucoup reproché de ne pas les avoir sponsorisés comme ils auraient aimé être sponsorisés. Pourtant, on leur a amené des sponsors, des partenaires, Infiniti, Total et d'autres.
J'explique. Ils voulaient que vous offriez le moteur en échange de votre marque sur le capot.
Exactement, mais on leur a pas fait comme ça, on l'a fait différemment. On leur a apporté, je crois, à peu près un demi-milliard d'euros sur les 12 ans de notre association. Donc c'est quand même beaucoup d'argent.
Et pourtant, je vous interromps, un demi-milliard d'euros, c'est, on va dire, 450 millions d'euros. C'est le budget qu'ont Ferrari ou Mercedes. Vous avez quand même beaucoup moins.
On a à peu près un tiers de, entre un tiers et 40% de moins que ces équipes. Donc ça fait une différence parce que c'est vrai qu'en Formule 1, compte tenu du règlement actuel, plus vous dépensez, plus vous avez de chances d'être compétitif. Et nous, notre philosophie a toujours été de dépenser justement en fonction de notre développement de notre équipe, mais également en fonction de la valeur de la Formule 1 en tant qu'investissement marketing pour la marque.
Justement, entre la saison 2018 et 2019, il s'est passé un événement de taille pour Renault. Carlos Ghosn, le grand patron du groupe Renault-Nissan, a été incarcéré plus de 100 jours au Japon. Qu'est-ce que ça va changer pour vous, la division F1, à laquelle il tenait beaucoup ?
La réponse courte et la réponse juste, c'est que ça ne change rien. On est engagé, on a le soutien du groupe, mais après, ce n'est pas un engagement, je dirais, sans condition. C'est un engagement conditionnel avec des paramètres économiques et des paramètres également sportifs et de progression. Donc, il y a une pression qui est là, qui aurait été présente avec Carlos Ghosn, qui est présente avec Thierry Bolloré. À ce titre-là, je dis que l'avenir est entre nos mains, n'est pas entre les mains d'une certaine façon d'un homme, mais entre nos mains à performer et à démontrer à Renault que Renault a raison d'être en Formule 1.
Oh, dis donc, vous me faites peur quand vous dites ça. Ça veut dire que si vous êtes bon, vous restez. Si vous n'êtes pas bon, vous partez.
L'équation est un peu plus compliquée que ça. Effectivement, il y a une pression de succès. Il y a une pression également que cet investissement il porte ses fruits sur, je dirais, la santé économique du groupe. Hein. Il y a beaucoup d'autres choses à faire que de la Formule 1. On est en Formule 1 et il faut que ça démontre que c'est pertinent de rester en Formule 1.
Merci beaucoup Cyril Abitboul d'avoir fait un détour par notre studio, directeur de l'équipe Renault F1.
Merci Philippe Vandel.
Europe 1.
Et pour info, les qualifications ont lieu ce matin, tôt, heure de Paris. Les Renault font un tir groupé 11e et 12e. Elles ont déjà fait mieux en tête. Hamilton et Bottas sur Mercedes, puis Vettel sur Ferrari. Tout à fait autre chose, dans un instant, notre page média avec ma première invitée qui cartonne à la tête du magazine C'est dans l'air. C'est dans l'air qui arrive en prime mardi pour parler d'Europe. Caroline Roux est avec nous dans quelques minutes.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Il est 18h40, c'est l'heure de notre page média. Philippe Vandel, vous recevez maintenant Caroline Roux.
Bonsoir Caroline Roux.
Bonsoir.
Les auditeurs d'Europe vous connaissent bien car vous avez passé ici 9 ans au service politique. Il y a 2 saisons, vous avez remplacé Yves Calvi aux commandes de C'est dans l'air sur France 5. Vos audiences ont dépassé celles de Calvi, y compris la saison dernière où on pensait que ça allait redescendre car c'était une année sans élection. Pas du tout. Les audiences ont continué de monter et cette saison ?
Eh bien cette saison, ça monte.
Non.
Mais si. Plus 8 par rapport à la saison dernière.
Plus 8 téléspectateurs.
Plus 8%.
Vous présentez ce mardi, le 19, une soirée spéciale, un document. Ça s'appelle « Europe, la tentation populiste ». C'était quoi l'idée de départ ? Pourquoi ce thème ? Et pourquoi une soirée spéciale ?
Alors, ça fait beaucoup de questions. Ouais. On va commencer par pourquoi une soirée spéciale ? Après les élections en Italie, après le Brexit, après Donald Trump, on s'est dit « est-ce que c'est notre tour ?» Donc du coup, on s'est posé avec les équipes de C'est dans l'air et on s'est dit, il va falloir qu'on s'arrête un peu plus longtemps que ce qu'on fait quotidiennement dans l'émission pour essayer de comprendre cette vague populiste et pour savoir, à 2 mois des élections, puisque le documentaire sera diffusé mardi à 2 mois du scrutin, faire une photographie de cette Europe-là. Ça, on peut le faire, on le fait au quotidien dans C'est dans l'air.
Mais là, ma question, il fallait... qu'est-ce que vous allez faire de plus que vous ne pouviez pas faire dans la quotidienne ?
En fait, c'est une vraie déclinaison du format de C'est dans l'air. Il y a à la fois des experts, du reportage, et puis il y a un étage supplémentaire, c'est qu'on est allé interroger les acteurs de cette actualité-là. Et ça, on ne peut pas le faire habituellement dans C'est dans l'air. Donc on est allé rencontrer, et c'est la seule interview qu'il a accordée à la presse française, on est allé interroger Luigi Di Maio, le vice-premier ministre italien, celui qui a mis une grosse charge contre Emmanuel Macron pendant la crise des Gilets jaunes. On est allé interroger Steve Bannon, Marie-Laurent qui a réalisé le film, a eu en exclusivité quasiment un long entretien avec Steve Bannon, qui est quand même ici, il faut le savoir, en Europe, pour organiser le renversement d'une certaine manière avec un parti qu'il appelle le mouvement. Enfin, il n'est pas en train de l'organiser, mais il veut mettre l'Europe cul par-dessus tête et organiser cette révolution populiste.
Vous avez également interviewé Nathalie Loiseau, qui est ministre chargée des Affaires européennes, Cohn-Bendit, et Marine Le Pen, présidente du Front National. Il y a des reportages aussi, Italie, Hongrie, Allemagne, France, et des experts intervenants dans l'émission. Qui sont-ils? Et comment vous les avez choisis ? Ce sont vos experts habituels.
Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment les ingrédients de C'est dans l'air avec une autre recette malgré tout. Parce qu'on retrouve les figures de C'est dans l'air. On retrouve Jean-Dominique Giuliani, on retrouve Marc Lazare, Thomas Negaroff, Jean-Dominique Merchet. Et pendant toute cette déclinaison, cette espèce de voilà, cette itinérance dans cette Europe des populismes, eh ben, il nous explique, il nous donne à comprendre avec toute l'intelligence et le calme surtout qui est le leur.
Ah oui, ils sont calmes et ça tranche avec les images de reportage sur les ronds-points et pas seulement. Alors, je ne vais pas faire mon Jean-François Kahn et dénoncer la pensée unique, mais quand même, ils sont tous du même avis. Ils sont tous là en train de dénoncer le populisme, le nationalisme. Il y en a
Moi, je ne suis pas d'accord. Ils l'expliquent. Ils ne le dénoncent pas. Ils le décryptent.
Est-ce que vous auriez laissé place à une opinion contraire? Parce qu'en même temps, quand on présente une émission, on endosse aussi le propos, Caroline Roux. Je ne vous le reproche pas. Je vous demande juste si vous le feriez.
J'entends vous appuyer sur le propos des experts.
Ouais.
En revanche, la parole des populistes, entre guillemets.
Ah, bah évidemment, quand on entend Marine Le Pen, elle ne va pas être d'accord avec Jean-Dominique Marchais.
Non, et quand on entend longuement Steve Bannon et quand on l'entend, ces hommes, ces femmes qui nous expliquent et on ne les juge pas. Moi, vous voyez ce que j'aime dans ce film, et j'en suis très fière de ce film, parce que ce n'est pas évident de faire une photographie de ce moment-là avec la montée des colères sans juger. On est allé voir des femmes dans le sud de l'Italie qui nous expliquent qu'elles ont voté Matteo Salvini, qu'elles se reconnaissent dans Matteo Salvini.
Ouais.
Mais en même temps, on n'est pas fascistes, on n'est pas des populistes. C'est juste qu'à un moment donné, il y avait une montée de l'insécurité, je ne pouvais plus sortir de chez moi et j'ai rencontré un homme. Alors, on essaie de démonter ces mécanismes-là. Alors, est-ce qu'on aurait laissé un expert qui nous dise... Qu'est-ce qu'il nous aurait dit d'ailleurs cet expert de différent par rapport à l'analyse, par exemple, que fait Marc Lazare sur l'Italie? Qu'est-ce qu'il nous aurait dit de différent?
Bonne question. Est-ce que la musique générique n'est pas un peu à sens unique? Vous allez voir le sens de ma question.
Allez,
écoutez, Caroline Roux. On va parler des vaccins. Et puis on va parler de l'aviation civile. Et puis on va parler des vacances. Et ça vous fait même rigoler, même quand on met un sujet joyeux. Même quand on met un sujet joyeux, avec cette musique qui est tellement anxiogène, on a l'impression que la Troisième Guerre mondiale va démarrer dans 10 jours.
Eh ben,
ça, c'est la musique du générique.
Non, vous avez raison, mais je l'assume totalement, cette musique, parce que je pense que ce document, il est pour l'histoire. Voilà, parce que moi, quand je fais 2 pas en arrière et que je regarde ce qui est en train de se passer, je me dis que j'ai vu le vote aux États-Unis, j'ai vu le Brexit, j'ai vu l'Italie, j'ai vu la Hongrie, j'ai vu l'Allemagne, j'ai vu l'AFD, j'ai vu ce qui se passe en France. Je me dis qu'il y a quelque chose qui ressemble à une lame de fond, parce que ça aurait quelque chose de... Ouais, en tout cas, on est peut-être à un moment d'histoire, un tournant de cette Europe que vous avez connue, que j'ai connue, qui était très apaisée,
mais on était pas,
qui était joyeuse.
On n'était pas 27, mais je ne suis pas en train de faire de la politique. Vous dénoncez la démagogie de Viktor Orban en Hongrie, il se dresse contre Bruxelles, il dénonce l'Europe comme une dictature, mais il prend, je l'ai appris grâce à vous, il prend les subventions européennes pour son pays, et pas qu'un peu.
Ah ben non, c'est celui qui prend le plus de subventions européennes, Viktor Orban.
Par habitant.
Par habitant. Donc il profite à plein de l'Union européenne et il tape sur l'Union européenne en permanence. Des propos relayés d'ailleurs dans le documentaire, c'est très intéressant, par Marine Le Pen qui essaie de le récupérer dans un groupe, on va dire le groupe des nationalistes au Parlement européen. Et elle dit, elle revendique, elle assume en disant mais c'est ça l'Europe qu'on veut, c'est l'Europe des nations. C'est l'Europe où on est libre, c'est l'Europe où, au fond, on prend les subventions de l'Europe et chacun se fait ce qu'il veut à l'intérieur de ses propres frontières.
On vous connaît parce que, pour autre chose, vous luttez contre la misogynie. Je me souviens que quand le président Macron avait été interviewé par BFM TV, par Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel, vous aviez dénoncé un manque de diversité, 2 mâles blancs de plus de 50 ans. Et parmi vos 6 experts mardi, Marc Lazare, Pascal Perrineau, Jean-Dominique Merchet, Thomas Negarov, Jean-Dominique Giuliani, une seule femme, Françoise Fressoze.
Ouais, je sais.
Bah alors pourquoi tous ces mâles blancs?
On pouvait dire quand même, on a Nathalie Loiseau et Marine Le Pen.
Oui, mais ils sont interviewés.
Oui, oui. Mais
pourquoi vous
n'arrivez
pas à faire la parité vous-même que vous dénoncez par ailleurs?
Mais vous avez raison, mais j'essaye de la faire tous les jours en plateau. Je vous assure que c'est mon combat. On est à 35,7. Je regarde ça comme la météo, moi. Je regarde les chiffres, je me dis, et pourquoi on n'y arrive pas? Et on a des mauvaises semaines. Et ben voilà, on cherche des bons clients, il ne faut pas se raconter d'histoire. Et des bonnes clientes. Et les bonnes clientes, ça se forge, ça se crée. Il y en a une qui travaille ici, qui s'appelle Hélène Jouan, que vous connaissez bien. Elle vient de temps en temps sur C'est dans l'air et de plus en plus, si on en est ravis. Eh bien, il faut avancer. Il faut de plus en plus faire venir des femmes sur les plateaux. Et vous avez raison de pointer cet aspect-là du film. Et j'avoue que je le regrette.
Ça sera mardi. Ça s'appelle Europe, la tentation populiste. C'est à 20h50 sur France 5. Et merci, Caroline Roux, d'avoir été ici avec nous, d'être revenue un temps sur Europe 1. À suivre le replay télé d'Eva Rock. Et puis comme c'est presque l'heure de l'apéro, ça va être l'heure de la planche apéro avec celle que vous connaissez forcément si vous êtes accro à l'émission Top Chef, Guylaine Arabian. À tout de suite.
Europe 1.
Il est
est 18h49, on va continuer à parler médias sur Europe 1 avec vous, Philippe Vandel, c'est l'heure du replay télé.
Bonsoir Eva Roque.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors comme tous les samedis, séance rattrapage avec vous et votre sélection de 3 programmes diffusés cette semaine à la télé, mais qui méritent toute notre attention après coup. À quoi ressemble le menu du jour ?
À 2 séries et 1 reportage. Lundi débutait sur TF1 la 2e saison des Bracelets Rouges, adaptation d'une fiction espagnole à succès. Le quotidien d'ados hospitalisés pour un cancer, pour une anorexie ou encore un anévrisme. Une série française portée par des personnages forts et attachants, extrêmement bien interprétés par de jeunes acteurs comme Tom Rivoire. Et dans la saison 2, il fait la connaissance d'une nouvelle patiente, une étrange fille.
Je m'appelle Louise, j'ai 17 ans, j'ai la mucoviscidose. Pas de guérison possible, donc en gros, toi t'es pas sûr de voir tes 18 ans, mais moi je suis sûr de jamais voir mes 25.
Eh bien ce personnage de Louise, Philippe, incarné par la formidable Mona Bérard, est une des réussites de cette 2e saison, tout comme l'arrivée de Jarry dans le rôle d'un prof de théâtre.
Mais oui, on l'avait reçu la semaine dernière à ce micro, Jarry, justement vraiment, pour parler notamment de son rôle.
Vraiment, il est très très bon. Alors comment parler de maladies touchant les enfants sans faire dans le larmoyant et l'excès de pathos ? Eh bien les Bracelets Rouges y parvient parce qu'il s'agit avant tout de parler de la vie, d'amour adolescente, d'amitié, et parce que l'humour est toujours là, notamment grâce au personnage de Mehdi, hilarant, Aziz Diabaté, je ne peux que vous recommander cette fiction française qui était diffusée lundi et qui est à revoir sur mytf1.fr.
Alors la saison 2 d'une autre série était proposée sur France 3 jeudi.
Ah oui Philippe, on change totalement d'univers. 2e saison de la série britannique Happy Valley. Alors départ pour une cité ouvrière du nord de l'Angleterre où il pleut souvent. Catherine Catwood est une flic crainte, respectée, une femme très forte. Elle est hantée par le suicide de sa fille. Et cette 2e saison débute avec une drôle d'affaire qu'elle raconte à sa sœur, des vols de moutons par des junkies qu'elle finit par interpeller.
J'aurais pu les laisser s'en tirer en leur passant un savon, ça aurait évité de faire encore monter les chiffres de la délinquance. Mais ils n'avaient pas eu une attitude très respectueuse, alors je les ai arrêtés. Et c'est là, en les mettant dans le fourgon, que j'ai remarqué l'odeur. Et quand je dis odeur, c'est un doux euphémisme. Les mots puanteur ou infection seront en dessous de la vérité. Imagine de la viande ou des fruits de mer qu'aurait passé l'été au soleil.
Mais alors pourquoi des junkies volent des moutons ?
Alors vous n'allez jamais le savoir pourquoi, parce
ah bon, mince.
C'est vraiment le départ de l'intrigue. Elle découvre effectivement, en allant les interpeller, un cadavre et une série de meurtres qui s'avèrent être liés en fait à son histoire personnelle. Et voilà comment le ton de la comédie va laisser place au tragique. Alors la réussite de la fiction elle réside à la fois dans la psychologie de l'héroïne, Catherine Catwood, mais aussi dans tous les personnages secondaires dont les actes et les tergiversations constituent en fait des histoires à part entière, mais sans jamais venir tronquer le récit principal. Et c'est un tour de force rendu possible grâce à l'écriture de la fiction. Il faut saluer l'interprétation magistrale de Sarah Lancashire dans le rôle principal. Si vous êtes abonné à Netflix, sachez que vous pouvez découvrir les 3 saisons, et sinon donc les épisodes de cette 2e saison sont à voir sur France.tv.
Et puis, on termine avec un nouveau rendez-vous.
Oui, je triche un peu, Philippe. Ah. Je triche parce que ce nouveau rendez-vous, il est prévu à 20h30 ce soir sur France 2.
Ah oui, donc c'est pas une rediff.
C'est pas une rediff. Après le 20h, Laurent Delahousse propose un magazine sur le modèle de 20h30 le dimanche. Et bien voilà, ça s'appelle 20h30 le samedi. Chaque samedi, une demi-heure sera consacrée à un thème décliné en 3 sujets. La culture et le patrimoine seront mis en avant, mais également des personnalités. Et ce soir, par exemple, c'est Claude Lelouch. Et je vous en parle parce que j'ai pensé à vous, Philippe, qui adorait les voitures et la vitesse. Est-ce que vous avez déjà vu le court-métrage de 10 minutes de Claude Lelouch intitulé « C'était un rendez-vous » qui a tourné en 76.
Mais évidemment, il traverse Paris dans un Paris désert, il atterrit à Montmartre à une vitesse absolument folle.
Il était à bord d'une Mercedes, c'était la sienne. Le cinéaste fonce au petit matin dans les rues de Paris, une dizaine de kilomètres entre la Porte Dauphine et Montmartre, à plus de 150 km/h. Exercice hautement dangereux, à ne pas reproduire surtout, vraiment.
De toute façon, maintenant, on ne peut plus avec les couloirs de bus.
Voilà, mais ça lui a valu une petite convocation à Claude Lelouch.
En fait, j'ai été convoqué par le préfet de police de l'époque et qui m'a fait venir dans son bureau en me disant « Écoutez, vous avez mis au début de ce film que le film avait été fait sans aucun trucage ni aucune accélération, oui. Donc les 18 feux rouges sont des vrais feux rouges. » Je dis « Oui. Les stops aussi, oui. » Alors, il me dit « Écoutez, je vais vous retirer votre permis de conduire. » Alors, je lui ai donné mon permis. Et puis, il l'a gardé 5 minutes. Il me dit « Je peux pas le garder plus de 5 minutes, sinon mes enfants vont plus me parler parce que c'est leur film préféré. »
Et c'est voilà. Bien ça, c'est une belle histoire.
Je vous encourage à regarder ce film que vous pouvez trouver sur Internet. Donc, c'est un nouveau magazine de Laurent Delahousse en 3 parties. Vous verrez les premières images du film que Claude Lelouch termine actuellement, La suite d'un homme et une femme avec Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée. Et puis, vous découvrirez aussi une rencontre entre Francis Isley et Nicole Croisy, une séquence tournée quelques jours avant le décès du compositeur. Tout ça est à voir ce soir à 20h30 ou en replay sur France.tv.
Merci beaucoup, Eva Roque. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et ça ne sera pas un replay.
Plaisir. plaisir des yeux et des papilles. C'est l'heure de la planche apéro, Philippe Andel.
Oui, et nous sommes avec Guylaine Arabian. Bonsoir Guylaine.
Bonsoir.
On vous avait vu à la télé dans Top Chef, vous y êtes plus, mais vous êtes toujours aux Petites Sorcières, reliées en cours, mais surtout, vous êtes ici pour nous parler d'un festival d'un genre magnifique. C'est le Village International de la Gastronomie. Vous êtes marraine de l'opération en 2019. Ça va se tenir au pied de la Tour Eiffel du jeudi au dimanche prochain, du 21 au 24 mars. En quoi ça consiste ?
Je trouve que c'est un événement extraordinaire parce que tout le monde peut venir. Tout le monde va retrouver ses racines, tout le monde va pouvoir goûter à d'autres choses. C'est-à-dire que si on vient même d'un pays qui n'est pas souvent représenté, on y va, il y aura le stand, il y aura des grands chefs de chaque pays qui vont montrer tout ce qu'ils savent faire avec leurs produits. Alors, et ça, c'est vraiment génial.
Alors quand vous dites tout le monde, c'est vraiment ça. Le pays d'honneur, c'est le Mali, mais il y a l'Algérie, l'Afghanistan, l'Argentine, l'Arménie, le Brésil, la Corée, Cuba, l'Égypte, le Mexique, le Niger, le Pérou, la Roumanie, la Syrie, le Tchad, la Thaïlande, le Vietnam, le Venezuela, les Comores, la Chine, l'Inde, mais c'est juste complètement fou. Le Cameroun et le Cap-Vert. Et vous-même, vous allez cuisiner là-bas ou simplement vous êtes venu ici avec votre planche apéro ?
Alors moi, je suis venu avec ma planche apéro parce que je ne cuisine pas là-bas. Et que je me suis dit qu'il y a de mon nord, il y a de ma Belgique, il y a de tout, voilà.
Alors, on est trois dans ce studio, mais franchement, Guylaine, vous avez amené pour 10.
Non, c'est un plateau pour deux. Normalement, une planche apéro, on prend un apéro et puis on mange un petit peu, on grignote.
Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des asperges, d'abord, c'est la saison. Donc,
ce sont les premières asperges, je les ai faites avec une mayonnaise très citronnée, comme on les aime dans le nord et en Belgique. J'ai fait les tomates aux crevettes grises. J'ai fait des croquettes de crevettes grises. J'ai fait des flamiches aux poireaux.
C'est belge, ça vient du Nord, ça.
C'est du Nord. Ouais. J'ai fait des plates-casses. Les plates-casses, c'est du pain avec un fromage blanc mélangé avec de la ciboulette, du sel, du poivre, avec des morceaux de radis dessus. Il y a des matchs.
Qu'est-ce que c'est ?
Ah, ce sont des harengs. Des harengs qu'on sert avec des filets de harengs.
Je ne sais pas si je vais prendre ça avec les doigts. Moi, je vais plutôt
me lancer dans les asperges. On mange ça avec les doigts, hein, d'accord ? Et on touche pas. On touche pas.
Elle veut pas que je touche.
Alors des harengs avec des haricots verts en dessous et des oignons. Et il y a une mousse au jambon.
Qu'est-ce que c'est une mousse au jambon ?
Une mousse au jambon. On prend un jambon et on le travaille, on le hache. J'ai mis dedans un fromage frais dedans. Et après on le met comme ça. C'est bon.
Et c'est quoi la question rituelle ? Avec ça on boit quoi, Guylaine Arabian ?
Mais tout. Alors.
Alors pas tout boire. Dis donc. Il faut qu'on tienne jusqu'au dîner au moins.
Si.
Alors vous buvez quoi avec ça ?
Ben moi j'aime la bière. Eh ouais,
normal.
Et puis, en fait, j'aime tout. C'est le drame. Donc, le temps de choisir, le temps de tout, voilà, c'est comme ça. J'ai mis du saucisson.
Ouais, d'accord.
Et alors, j'ai un pâté que me fait mon boucher, là où j'habite et qui fournit le restaurant, toute sa viande et tout. C'est un type extraordinaire.
D'accord.
Qui a une viande extraordinaire et qui me fait un pâté chez lui, où je mets des petits cubes comme ça avec des cornichons français.
Vous savez quoi ? Je vais me laisser appâter par le pâté. Ha ha ha, humour. Le Village International de la Gastronomie et des Cuisines Populaires. La marraine, c'est Guylaine Arabian. Merci d'avoir été avec nous sur Europe. Et je vais le redire, c'est de jeudi prochain à dimanche prochain. C'est au pied de la Tour Eiffel, on ne peut pas se rater.
Europe 1.
Dans un instant, le journal de 19h avec Chanel Petit. A tout de suite sur Europe 1.
18h, 20h. Votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
18h, 20h,
Philippe Vandel sur Europe 1.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour de l'info et des infos. Il n'y a pas que les Gilets jaunes qui manifestent. Aujourd'hui sont réunis place de l'Opéra à Paris, 45 000 personnes pour réclamer une action climatique en faveur du climat et à l'appel de 140 associations. Hier, c'était les lycéens, 1 million dans le monde entier. Et des associations en marge attaquent l'État français pour inaction. Tout ça, pour quel résultat ? Réponse avec Jean Jouzel, il est climatologue. C'est l'ancien vice-président du GIEC. Et puis, ne manquez pas notre demi-heure culturelle avec Vanessa Zaza et ses voyages, Nicolas Carreau et ses livres, Mathieu Charrier et ses VHS, et surtout Antoine Duléry et son humour. On l'a vu dans Brise de Nice, Camping 1, 2 et 3, et dans la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Il revient sur ses 8 et là, je l'ai croisé dans le couloir, il est comme un fou.
Pour commenter, réagir ou nous laisser un message, rendez-vous sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Il est 19h, pile. Bon début de soirée à tous. Le journal, Chanel Petit, Philippe Vandel.
Bonsoir Chanel.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Au sommaire de votre journal de 19h.
Regain de violence des gilets jaunes en ce 18e samedi de mobilisation. L'avenue des Champs-Élysées à Paris défigurée. Des magasins pillés, le Fouquet se saccager, plusieurs bâtiments incendiés. Nous prendrons la mesure de ces dégâts dès le début de ce journal et nous suivrons le cortège en direct. 192 personnes interpellées à Paris depuis ce matin, plusieurs dizaines de blessés. Nous ferons le point avec Guillaume Biet. Autre grand rassemblement aujourd'hui et toute autre ambiance, des marches pour le climat un peu partout en France. Dans le calme, 45 000 manifestants à Paris, nous y serons également. Et puis la droite lance sa campagne pour les élections européennes, Conseil national des Républicains à Lyon aujourd'hui, en l'absence des poids lourds du mouvement.
Europe 1. Et pour commencer ce journal, la mobilisation des Gilets jaunes émaillée de violence à Paris aujourd'hui.
Oui, l'avenue des Champs-Élysées saccagée en quelques heures. Les images sont très impressionnantes. Magasins pillés et incendiés. L'immeuble d'une banque mis à feu par des manifestants. Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes sur les Champs-Élysées. Et ce soir, les dégâts sont considérables.
Oui, rien ne semble avoir été épargné sur l'avenue. Le sol est jonché de bris de verre, le verre des vitrines de magasins pillés, le verre des abribus tout le long des Champs-Élysées. Les murs sont tagués, des dessins anarchistes, des slogans hostiles au gouvernement. Je me trouve juste devant le restaurant du Fouquet's. À l'intérieur, plus aucune table, comptoir cassé. La tente de l'établissement a été brûlée. Brûlée aussi des scooters et 4 des kiosques à journaux qui bordent l'avenue. Et puis, les casseurs s'en sont, comme souvent dans ces rassemblements, pris aux banques qu'ils considèrent comme symbole du capitalisme, avec cette fois un drame évité à quelques dizaines de mètres des Champs-Élysées. Une agence Crédit du Nord a été incendiée. En quelques secondes, les flammes atteignent le deuxième étage où se trouvent une femme et son bébé. Des gilets jaunes ont tenté de forcer le portail pour les évacuer. Ce sont finalement les pompiers qui les ont extraits de l'immeuble. 11 personnes sont blessées, majoritairement incommodées par les fumées.
Merci Jean-Sébastien Soldaini en direct des Champs-Élysées pour Europe 1. Voilà pour les dégâts aujourd'hui. Nous suivons maintenant le cortège avec vous, Jean-Jacques Herry, toujours dans ce secteur des Champs-Élysées. Et c'est désormais Place de l'Étoile que ça se passe, c'est ça ?
Oui, que ça s'est passé il y a quelques minutes, oui. C'était le dernier point de friction où il restait encore des manifestants. Donc la Place de l'Étoile qui est toujours, au moment où je vous parle, occupée par les fourgons de police et par un camion à eau qui arrose les gilets avec des détonations qui ont résonné régulièrement tout à l'heure. Grenades assourdissantes, grenades de désencerclement, lacrymogènes. Les forces de l'ordre semblaient vouloir disperser le plus vite possible le mouvement et les manifestants réunis à Place de l'Étoile, ben, certains étaient très surpris par ce qui est en train de se passer, comme Marie-Louise, gilet jaune sur le dos. Elle s'est assise sur un banc comme sonnée après une journée dont elle attendait beaucoup.
Bah, montrer qu'on était là, maintenant ça a dégénéré, mais je pense que les gens en ont ras-le-bol. Les gens en peuvent plus. Donc je cautionne pas, mais je peux comprendre.
Et au moment où je vous parle, nous pouvons voir les gendarmes mobiles descendre et remonter l'avenue des Champs-Élysées pour l'évacuer totalement, avec toujours ce canon à eau qui continue d'arroser. Pas de violence pour l'instant lors de cette évacuation, même si dans les rues adjacentes, on assiste parfois à des courses-poursuites. Mais globalement, la foule est beaucoup moins dense et l'évacuation risque peut-être de continuer encore quelques heures.
Merci beaucoup Jean-Jacques Herré. Une situation donc tendue, les forces de l'ordre redoutaient ces violences. Mais Guillaume Biet s'est allé bien au-delà de ce à quoi elles s'attendaient.
Ah oui, très clairement. Depuis plusieurs jours, effectivement, les autorités craignaient un scénario de ce type, mais pas forcément de cette ampleur. Les services de renseignement tablaient sur la présence d'au moins 800 ultras, d'après nos informations. Ils étaient finalement le double, selon le ministre de l'Intérieur. Ils avaient préparé cet acte 18. Leur mot d'ordre était clair, s'attaquer directement aux forces de l'ordre et commettre le maximum de dégradation. Double objectif rempli, car dès ce matin, les gendarmes mobiles Place de l'Étoile ont été violemment attaqués. Dans une avenue adjacente, des voitures de police ont dû faire demi-tour. On a vu également un policier frapper à terre, perdre son casque sur les Champs-Élysées en tentant d'éloigner des pilleurs de bijouterie. On compte ce soir 60 blessés, 17 policiers et gendarmes, un pompier et 42 manifestants. Donc des violents affrontements d'un côté et puis d'innombrables commerces saccagés, pillés ou incendiés sur les Champs-Élysées, on vient de l'entendre. Les Black Blocs, qui s'affichaient comme tels sur une de leurs banderoles, ont réussi à reproduire les scènes de chaos qu'on avait déjà vues le 1er décembre. Pour l'instant, 192 personnes ont été arrêtées, dont au moins 64 placées en garde à vue. En revanche, ces casseurs ne se sont pas mêlés à la grande marche pour le climat. Ça, c'était l'autre grande crainte des autorités.
Merci beaucoup Guillaume Biais du service police-justice d'Europe 1. Et d'après les informations d'Europe 1, Emmanuel Macron, qui était au ski depuis son retour du Kenya, rentrera ce soir à Paris. Édouard Philippe, lui, s'est rendu tout à l'heure dans le commissariat du 8e arrondissement près des Champs-Élysées. Des violences inadmissibles, a déclaré le Premier ministre. Ceux qui excusent, qui encouragent, se rendent complices. Il y avait 14 500 manifestants tout à l'heure dans toute la France à 14h30, dont 10 000 à Paris.
À suivre l'autre mouvement de ce samedi, celui des défenseurs du climat, bien plus nombreux que les Gilets jaunes. Nous rejoindrons le cortège parisien juste après une pause.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Il est 19h06, la suite du journal sur Europe 1, c'est avec vous Chanel Petit, Philippe Vandel.
Autre mobilisation aujourd'hui, dans le calme cette fois.
Mobilisation pour le climat à l'appel de 140 organisations dont Greenpeace et la fondation de Nicolas Hulot. La marche du siècle avec plusieurs cortèges aux quatre coins de la France, à Limoges, à Saint-Étienne ou encore à Strasbourg. Ils étaient 45 000 à Paris selon le comptage du cabinet Occurrence pour plusieurs médias dont Europe 1. Paris, où nous vous retrouvons, Claudia Bertram, vous êtes place de la République où plusieurs cortèges ont convergé et là des concerts ont commencé.
Oui, une scène a été installée ici, place de la République, avec cette banderole « Faisons de 2019 l'année du climat ». Des concerts et des prises de parole se succèdent pour clôturer cette marche pour le climat qui s'est déroulée dans le calme, dans une ambiance plutôt bon enfant et qui a réuni des dizaines de milliers de manifestants ici à Paris. Une très bonne chose pour Jean-Christophe.
On arrive à un point de rupture et à voir tant de monde qui défile pour ce genre de choses, c'est quand même déjà un bon signe, un bon espoir. J'espère que les choses iront au-delà des espérances et que des vraies actions prendront place.
Et dans le cortège, toute l'après-midi, on pouvait voir des manifestants en gilets jaunes, comme Florence qui est venue de Lille et qui a directement rejoint la marche pour le climat.
La lutte, elle est autant dans la protection de l'environnement que la lutte sociale. Et en fait, on est vraiment là pour plein de choses. Vraiment, on a du mal à énumérer et tellement on a le cœur serré par tout ce qui se passe aujourd'hui en Europe, en France, au niveau social, au niveau humain, au niveau pollution, c'est catastrophique.
Ici, place de la République, les manifestants se dispersent progressivement. En musique, vous l'entendez peut-être derrière moi, les concerts devraient se poursuivre durant une heure encore.
Merci Claudia Bertram, en direct de la place de la République à Paris pour Europe 1.
Et à noter à ce sujet que je recevrai dans quelques minutes un des participants à cette marche, le climatologue Jean Jouzel. Tout à fait autre chose, quoique c'est de la politique. Il y a un peu plus de deux mois des élections européennes, les Républicains ont présenté leur programme à Lyon aujourd'hui lors de leur Conseil national.
Alors que les sondages donnent plutôt les macronistes et les lepénistes en tête, mais la droite n'est pas non plus perdue. Les sondages lui donnent entre 13 et 14%. Aurélie Herbemont, vous étiez à ce Conseil national à Lyon et les Républicains ont montré qu'ils veulent aussi leur place dans cette campagne.
Oui, et Laurent Wauquiez est formel. On va déjouer les pronostics, alors il tape sur les favoris.
Emmanuel Macron et Marine Le Pen se font chacun la courte échelle, prétendante étouffer toute autre parole. Mais nous sommes là. Parce que la voix des Français refuse d'être confisquée dans ce face-à-face mortifère, car l'un comme l'autre sont tous les deux des impasses.
Le patron de LR qui défend 75 propositions, un programme où il est beaucoup question d'immigration, renvoi des bateaux de migrants sur les côtes africaines, demande d'asile effectuée avant d'arriver en Europe. Il est aussi question de lutte contre le terrorisme islamiste dans ce projet. Laurent Wauquiez souhaite un front commun des Européens pour empêcher le retour des djihadistes.
Je propose que l'Europe prenne l'initiative en Irak d'un tribunal pénal international, d'un Nuremberg des djihadistes qui pourraient prononcer des peines d'exception. Ainsi seraient-ils jugés, condamnés et détenus sur place. Ils ont trahi l'Europe, ils n'ont plus leur place sur le continent européen.
La droite qui a décidé d'occuper un créneau, celui de défenseur de la civilisation européenne, mise en danger, selon Laurent Wauquiez, par le multiculturalisme.
Merci Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Et c'est Raphaël Glucksmann qui va mener la liste socialiste lors des prochaines élections européennes. Il a été désigné par le PS à la mi-journée. Le fondateur du mouvement Place Publique devra en échange placer des candidats socialistes dans sa liste.
Et c'était le journal de Chanel Petit. Merci beaucoup Chanel.
Europe 1, 19h10.
La météo, c'est maintenant avec vous Valérie Darmon. Gros contraste entre hier et aujourd'hui du côté du ciel et même des températures.
tout à fait près de la Manche demain matin et puis de la façade atlantique aux côtes de la Manche jusqu'aux Ardennes l'après-midi. C'est un temps instable qui va s'installer depuis cette nuit jusqu'à demain soir avec une succession d'averses parfois fortes et d'éclaircies de temps en temps. Du sud-ouest à l'Alsace, vous passez la plus grande partie de votre journée sous les nuages et sous la pluie. Dans les Alpes, le massif central, le Jura et les Vosges, il va neiger de nouveau dès 1200 mètres d'altitude et puis 700 à 800 dans la soirée. Du Roussillon au sud de Rhône-Alpes, jusque sur la Côte d'Azur et la Corse, les nuages bas du matin vont laisser la place tout de même au soleil l'après-midi, mais le vent va souffler fort, jusqu'à 90 km/h en rafale. Les températures dans ce contexte sont évidemment en baisse, avec pour l'après-midi des valeurs entre 8 à Verdun et 20 degrés à Avignon.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Avec vous, Cyril de la Morinerie, le journal des sports. On va commencer par du rugby. Une victoire pour le 15 de France, mais sans convaincre, dites-vous.
Oui, puisque les Bleus terminent le tournoi avec un succès timide. 24 à 14 en Italie. Une victoire contre la plus faible équipe du tournoi. C'est la deuxième victoire, effectivement, après celle face à l'Écosse. Mais elle donne peu d'assurance à cette équipe de France. Simon Rubin, vous êtes notre envoyé spécial en Italie.
Oui, c'est vrai que cette dernière rencontre et cette victoire finale face à l'Italie laissent pourtant un goût assez amer. Faut dire qu'aujourd'hui, durant la rencontre, on a clairement vu que les Français étaient dépassés. Même s'ils ont gagné, ils ont passé leur temps à défendre. L'équipe qui a été la plus impressionnante finalement, c'est bien l'Italie, qui a passé son temps à attaquer, qui s'est créé les plus belles occasions. Et donc au final, les Français terminent ce tournoi en demi-teinte. Certes, il y a la victoire, mais elle ne permet pas du tout d'effacer les doutes concernant cette équipe, concernant sa solidité. On est maintenant à 6 mois de la Coupe du Monde et il faut être très clair, jamais l'équipe de France n'est apparue aussi faible, en tout cas aussi fébrile. Alors le staff va avoir beaucoup de travail maintenant, mais on ne voit pas comment cette équipe de France pourrait se métamorphoser d'ici à la Coupe du Monde.
C'est Simon Rubin, on est combien alors Cyril ?
Quatrième derrière.
Sur 6.
Quatrième sur 6, derrière le Pays de Galles qui remporte donc ce tournoi et c'est le grand chelem pour le Pays de Galles qui s'impose face à l'Irlande 25 à 7. L'Angleterre qui joue actuellement contre l'Écosse mène 31 à 12 et donc l'Irlande est troisième, la France quatrième, l'Écosse cinquième et l'Italie sixième. Trois matchs sont en cours dans ce top 14, c'est la 19e journée, c'est la deuxième mi-temps. Castres mène 19 à 10 contre Perpignan. Grenoble est mené par le Racing 17 à 9. Agen est facile 16 à 0 contre La Rochelle. Ce soir, Bordeaux-Bègles sera opposé au Stade français. A noter également cet après-midi la victoire de Montpellier à Toulon 21 à 18.
Ski avec un S à la fin, un grand sourire pour Alexis Pinturo et la mine des mauvais jours. C'est un autre genre de ski pour Martin Fourcade.
Oui, en ski alpin, Coupe du Monde. Alexis Pinturo a terminé la saison avec un magnifique succès. Le skieur de Courchevel remporte le géant d'Andorre. Saison réussie pour le Français qui est également devenu pour la première fois champion du monde de ski alpin. C'était en combiné. En revanche, Martin Fourcade toujours en grande souffrance. Le Français a dilapidé l'avance des Français en relais. Le quintuple champion olympique, qui est en grande difficulté cette saison, a donc pioché lors du tir debout. Martin Fourcade.
C'est de la grosse déception, c'est de la colère. Après, c'est surtout de la tristesse pour mes coéquipiers et le staff. Et j'avais à cœur de vraiment bien faire sur ce course. C'est vrai que j'étais vraiment mobilisé. Voilà, j'avais l'impression que ça allait jusqu'à ce dernier tir. Et voilà, un passage, un gros trou. Et quand on est dans une situation de manque de confiance comme moi, bah, ça arrive.
Voilà, ça peut arriver même au grand champion, quintuple champion olympique, Martin Fourcade. Saison à oublier pour lui, mais il va revenir encore plus fort, on en est sûr.
Du foot, J-1 avant le choc PSG-OM.
Soirée spéciale demain soir sur Europe 1 autour de Lionel Rousseau et de ses consultants. Et on comptera évidemment sur vous, Philippe Vandel, pour poursuivre ce grand match. 100% PSG-OM sur Europe 1. Alors Paris, sans Cavani, sans Draxler, sans Neymar qui sont toujours blessés. Mais un PSG favori qui n'a plus perdu face à l'OM au Parc des Princes depuis 9 ans, rendez-vous compte, 2010. Mais l'entraîneur parisien Thomas Tuchel cet après-midi en conférence de presse, c'est prudent. Il rappelle qu'en face, il y aura un certain Mario Balotelli.
Il est toujours dans les surfaces. Ils font beaucoup de centres. C'est un joueur clé dans leur offensif et un joueur fixe qui est toujours dangereux. Ça changeait beaucoup pour eux. Et on doit être attentif.
Ce soir, le multiplex Europe 1 avec 4 matchs au programme. Et enfin, je vous rappelle la victoire de Zidane et du Real Madrid 2 à 0 cet après-midi contre le Celta Vigo.
Et je vous rappelle que c'était Cyril de la Morinerie aux commandes du Journal des Sports. Merci Cyril.
Europe 1.
C'était l'autre manifestation du jour, la marche du siècle pour réclamer l'action des États face au réchauffement climatique. Mon prochain invité y était, dans ses cortèges, le climatologue Jean Jouzel, ancien président du GIEC, est avec nous dans un instant.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit avec Philippe Vandel jusqu'à 20h sur Europe 1. Et maintenant, Philippe, à 19h16, on va parler d'avenir et du climat.
Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. C'était la fameuse phrase de Jacques Chirac en 2002. À croire qu'en 17 ans, il n'a pas été entendu. Aujourd'hui, s'est tenue place de l'Opéra, la marche pour le climat. 45 000 personnes réunies pour réclamer une action en faveur du climat et à l'appel de 140 associations. Parmi elles, mon invité. Bonsoir Jean Jouzel.
Bonsoir Philippe Vandel.
Merci d'être avec nous. Vous êtes climatologue, ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC, je vais le dire. C'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est vous, ce collectif de scientifiques qui nous alertait sur le réchauffement climatique. Vous êtes en direct dans ce studio, vous arrivez tout juste de la marche. Question obligatoire, est-ce que vous êtes venu à pied ?
En métro, depuis la marche.
Vous êtes venu en métro, dans un bon bilan carbone.
C'est quand même assez loin.
Blague à part, 45 000 participants, c'est pas mal, vous êtes heureux de cette marche ?
Oui, je crois que c'est un vrai succès, enfin... J'y étais à partir de 14h, c'était vraiment très difficile de partir de la place de l'Opéra qui était vraiment très pleine et qui débordait. Et oui, effectivement, je fais confiance à votre statistique de 45 000 personnes, statistique officielle. Il faut voir qu'il y a eu beaucoup de marches dans toute la France aussi, donc ce qui multiplie le nombre de participants moins par 3 ou par 4.
Exactement, et c'était la plus grosse manifestation aujourd'hui, bien davantage que les Gilets jaunes. Mais justement, l'affaire du siècle, cette pétition a été signée par 2 millions de personnes, c'est considérable. Et pardon de vous le dire, et vous le regrettez assez, presque rien ne se passe. Les Gilets jaunes, au plus fort des manifestations, étaient une centaine de milliers. Ils ont fait reculer le pouvoir. Pardon de dire les choses comme ça. Est-ce que vous êtes trop gentil, trop urbain, aux deux sens du terme ?
Je pense qu'il faut rester urbain, Il faut dire les choses. Je crois qu'on les dit. Notre problème de scientifique, c'est qu'on les dit depuis 30 ans et qu'on ne nous a pas beaucoup écoutés. C'est vrai.
Ça allait être ma question.
Exactement.
Pourquoi nous entendons pas ?
Bien parce que le message que nous donnons, c'est qu'il faut faire quelque chose tout de suite pour éviter... disons, un climat difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, pour les jeunes d'aujourd'hui, quand ils auront mon âge, je dirais, dans la deuxième partie de ce siècle. C'est un peu ça, notre message. Et ça, c'est difficile à entendre. Ensuite, notre message, c'est effectivement, faites un peu attention à ce que vous faites. Un changement, cette nécessité de transition aussi n'est pas acceptée par tout le monde, on le voit bien. Le point de départ des Gilets jaunes, Philippe Vandel, rappelons-le, c'est
bien
quand
sûr.
Même cette augmentation de la taxe carbone. Alors on peut en parler, je suis favorable à une fiscalité environnementale, mais qu'elle soit juste, c'est clair. Donc effectivement, mais je ne crois pas quand même qu'il faille, nous allons répéter, redire les choses. Je pense que la mobilisation d'aujourd'hui avec des jeunes, des très jeunes, j'ai vu des jeunes parents avec des enfants dans les bras et aussi ma génération, c'était quand même assez formidable et je crois que c'est une façon de se faire entendre, effectivement.
D'un mot sur la taxe carbone, il y a des gens qui la récusaient, mais d'autres, et ils n'avaient pas forcément tort, disaient que l'argent de la taxe carbone n'allait pas seulement pour s'occuper du bien-être de la planète, c'est pour les énergies renouvelables. Et ils avaient l'impression d'avoir été un peu l'intendant de la farce.
C'est le problème. Il y a deux critères pour le succès de la taxe carbone, qu'elle soit juste, c'est-à-dire qu'elle ne touche pas exagérément et finalement les couches pauvres de la population, mais qu'elle soit aussi qu'on sache ce que l'on en fait. Et en France, Bercy étant une boîte noire, ce n'est pas très facile et on ne réussira jamais une fiscalité environnementale si on ne la clarifie pas.
Et que ce soit fléché. Selon le rapport spécial du GIEC qui avait été présenté fin octobre, au rythme actuel du réchauffement, le seuil de 1,5 degré sera franchi entre 2030 et 2052. C'est pour faire peur, c'est réaliste ou c'est pour
non,
aiguiser
c'est réaliste,
les consciences ?
C'est quasiment certain.
Je vais vous dire le sens de ma question. Moi, j'étais jeune journaliste dans les années 80 et les scientifiques nous annonçaient la fin des réserves de pétrole pour 2010-2020. Ils nous disaient que c'était quasiment certain et on n'y est pas, il y a toujours du pétrole.
Oui, alors quand même, pour la défense de ma communauté, qui n'est pas la même que celle des pétroliers.
On est d'accord.
Eh bien, je dirais que ce que l'on vit actuellement, c'est ce que nous envisageons il y a une trentaine d'années, c'est-à-dire un réchauffement climatique de 1 à 2 dixièmes de degré par décennie, sur lequel se surajoute une intensification des événements extrêmes. C'est ce qu'on vit, et ça veut dire quand même qu'il faut prendre au sérieux ce qu'on envisage pour 2050, dans 30 ans et au-delà. Donc, non, nous ne nous sommes pas trompés, malheureusement, je dirais presque.
Hier, il y a eu des grèves scolaires un peu partout en France et dans le monde. C'était à l'initiative de Greta Thunberg, c'est cette jeune Suédoise de 16 ans, elle faisait la grève de l'école tous les vendredis. Désormais, ils sont des centaines de milliers dans le monde, ça va de l'Australie à l'Ouganda. Hier, il y a eu 200 manifs de collégiens, de lycéens dans toute la France, dont 30 à 40 000 à Paris. Que pensez-vous de cette initiative ?
J'ai bien apprécié le titre du Monde, 1 million de jeunes dans la rue. C'était 1 million d'après le Monde, je crois. Donc non, c'est formidable parce qu'ils sont doublement concernés. Ils sont concernés, bien sûr, par ce que j'ai déjà mentionné, le fait que si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, c'est eux qui seront, je dirais malheureusement, aux premières loges des conséquences. Mais c'est aussi à eux, ils vont rentrer pour beaucoup d'entre eux à échéance de quelques années dans la vie professionnelle. C'est aussi à eux de réussir cette transition énergétique. Et c'est très attractif pour les jeunes. Ce sont des créations d'emplois, cette transition. Nous le redisons avec Pierre Laroutourou dans notre proposition de pacte finance climat. C'est beaucoup d'inventivité, de recherche, d'innovation. Donc ces jeunes doivent, non seulement, ils doivent vraiment rentrer dans cette transition énergétique et la réussir. Et c'est pour ça que je leur fais vraiment confiance.
Pierre Laroutourou qui était venu s'en expliquer ici à ce micro. Et je souris parce qu'il y a aussi quelque chose de très attractif. C'est de faire sauter les cours le vendredi. Et je vais vous dire, le reproche qu'on fait à ces jeunes, c'est qu'ils soient manipulés.
Je ne le crois pas. Enfin, bien sûr, après...
Million de personnes, un mouvement spontané comme ça, oui, ça paraît aussi étonnant.
Oui, je ne crois pas. Bien sûr, derrière, il y a effectivement une organisation. Je pense qu'il y a des jeunes aussi qui souhaitent, à partir de là, s'exprimer, qu'il y ait de l'organisation, mais je ne crois pas... Voyons, par exemple, j'avais ma petite fille qui était dans la rue hier, une de mes petits-enfants, elle n'était pas manipulée, même pas par moi, vous voyez.
Ah bon, même pas par vous. Le milliardaire Richard Branson a appelé publiquement à soutenir ces jeunes en grève, sauf que Branson, c'est quand même le fondateur de la compagnie aérienne Virgin Atlantic, et on sait que l'industrie aéronautique est responsable à elle seule de 2% des émissions de CO2.
Je vous rectifie, Philippe, 3% actuellement, 3%. Et ça augmente très rapidement, c'est bien ça le problème.
Et là, il y a une petite part d'hypocrisie quand même.
Oui, bien sûr qu'il y a une part d'hypocrisie. En plus, vous savez bien le problème des
c'est
quoi,
le greenwashing.
Sur quoi les gilets jaunes ont complètement raison, c'est le fait que ces taxes carbone affectent les couches les moins aisées de la population en France et que ceux qui prennent l'avion n'en sont absolument pas taxés. Donc c'est
exactement.
Un véritable problème.
Et plus on est CSP+++, plus on pollue. Un mot du procès, il y a une pétition qui a été soutenue, je l'ai dit, signée par 2 millions de personnes, 4 associations, 4 ONG qui ont déposé un recours en justice contre l'État pour inaction, carence fautive face au changement climatique, au non-respect des obligations en la matière. Que pensez-vous de cette initiative ?
Donc, je l'ai signée et je pense que c'est avant tout une façon de se rendre visible. Je crois que c'était important
ma question.
Aussi.
Pensez-vous que ça puisse être effectif et que vous puissiez gagner ce procès ?
Oui, on voit bien que le procès va prendre 2 ans. Il y a une difficulté à gagner ce procès parce que ce n'est pas si simple. On a déjà discuté aussi avec les e-commerces. Ce n'est pas si simple, par exemple, d'attribuer directement une catastrophe individuel au réchauffement climatique, mais dans le cas du procès qui est attenté, c'est quand même par rapport à la loi sur la transition énergétique. Effectivement, si on n'en suit pas les objectifs, la loi est là et je crois que c'est normal de dire il faut que la loi soit respectée.
Je voudrais faire entendre un autre son de cloche, c'est dans l'Express, Laurent Alexandre qui dénonce lui également le réchauffement climatique, s'attaque à ce qu'il appelle les vers apocalyptiques qui voudraient, je le cite, que nous divisions au minimum par 4 notre consommation énergétique, ce qui ramènerait la consommation des Français à celle du Nigeria et de l'Égypte. Un tel retour en arrière, écrit-il, ne peut passer que par la dictature. Que lui répondez-vous ?
Non, d'abord, Laurent Alexandre se trompe. Ce n'est pas une division par 4 de notre consommation d'énergie. On espère diminuer notre consommation d'énergie au maximum par 2. C'est une division par 4 d'émissions des gaz à effet de serre. Et il y a effectivement, donc, c'est surtout produire de l'énergie par l'utilisation d'énergie non carbonée. Je ne vais pas rentrer dans le débat ici. Il y a l'énergie nucléaire d'un côté, mais surtout les renouvelables qui sont appelées à se développer.
Mais sur le retour en arrière ?
Non, je n'y crois pas. Au contraire. Alors là, je n'y crois pas du tout. On peut effectivement... Il y a beaucoup d'énergie qui est utilisée pour, il y a un manque d'efficacité. Il faut un peu de sobriété également. Ce n'est pas un retour en arrière. La société vers laquelle nous devrions aller est plutôt extrêmement attractive et je crois que c'est plutôt un bond en avant. Et c'est du point de vue économique une nécessité de faire cette transition. Ce sont les pays qui la réaliseront qui seront les vainqueurs,
qui sont devant,
qui seront les gagnants du point de vue économique, non simplement du point de vue écologique.
Merci beaucoup Jean Jouzel, climatologue, ancien vice-président du GIEC, d'avoir été avec nous en direct juste après la manif.
Merci Philippe Vandel.
Ne manquez pas notre demi-heure culturelle, on va parler des morts célèbres avec Nicolas Carreau, des rebelles au ciné avec Mathieu Charrier, les nouveautés du salon du tourisme, là il faut prendre l'avion avec Vanessa Zah, et notre invité, le comédien Antoine Duléry, de retour à la télé.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Il est 19h26, vous écoutez votre grand journal du soir. Place maintenant à la culture avec vous, Philippe Vandel.
La demi-heure culturelle de ce 18-20 avec Vanessa Zah, bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Nicolas Carreau, bonsoir Nicolas.
Bonsoir Philippe.
Mathieu Charrier, bonsoir Mathieu.
Bonsoir à tous.
On va parler de rebelles, de disparus célèbres et de nouveautés touristiques. Oui, ça existe. Et notre invité Antoine Duléry, bonsoir Antoine.
Bonsoir Philippe.
Comédien de théâtre, de télé, de cinéma, on vous a vu dans Camping 1, 2, 3, dans Brise de Nice, dans beaucoup de films de Lelouch. Tout ça pour ça jusqu'au dernier avec Johnny ou dans la série Les petits meurtres d'Agatha Christie qui a cartonné, qui cartonne sur France 2. Mais là, vous êtes à l'affiche d'une série sur C8 en 6 épisodes. Chaque mardi, pendant 3 semaines, c'est 2 épisodes par soir. Ça s'appelle Les Ombres Rouges, c'est avec Nadia Farès et Manon Azem. Et si l'ennemi était dans la famille ? Super punchline, c'est quoi l'histoire ?
Ah, l'histoire, je ne vais pas la raconter parce qu'il y a encore plein d'épisodes à voir. En tout cas, c'est l'histoire de Nadia Farès, dont la sœur est donc ma fille, puisque je fais le père de Nadia Farès. Donc c'est un rôle non pas de composition, mais de décomposition, hein, parce que j'ai que 9 ans de plus qu'elle. Donc c'était amusant à faire.
Ah, et oui, effectivement,
il y a.
Ça.
Oui, oui, je pensais que j'ai une fausse barbe. Ouais. Mais voilà, j'ai une fille qui a été enlevée il y a des années, et il se trouve que je ne sais pas ce qu'il est devenu. Ma femme est morte pendant quand elle a apporté la rançon. Donc tout ça est un peu terrible. Et au cours d'une enquête, Nadia Farès trouve une photo et elle se dit « c'est ma sœur ». Ma sœur est peut-être toujours vivante. Et donc voilà, toute l'histoire, toute la trame est là. Est-ce que cette fille disparue est toujours vivante et peut-être va-t-elle réapparaître ? Donc c'est ma fille, la sœur de Nadia. Tout se passe effectivement dans une famille. Donc ce qui est intéressant, c'est que il y a vraiment beaucoup de non-dits dans cette histoire, qui est aussi une histoire policière. C'est une histoire sombre qui se passe dans des endroits très clairs, à Cassis,
avant qu'on parle des endroits.
Et c'est très beau. Et donc, il y a un contraste qui est, je trouve, très intéressant dans la série.
Avant qu'on parle des endroits, les ombres rouges, expliciter le titre, c'est quoi ces ombres rouges ?
Il y a plusieurs, mais je ne peux pas tout dévoiler, donc c'est compliqué. Ah, mais oui. C'est avant tout, oui, c'est ça.
Je croyais, alors bêtement, parce que j'ai vu les quatre premiers épisodes, ouais, que c'était les ombres que voyait la petite fille quand elle avait été enlevée, car elle avait un bandeau rouge. Mais ça, l'aviez oublié dans le scénar.
Ça, c'est vrai. Et je peux vous dire que je l'avais totalement oublié. Voilà, je vais être très clair.
Non, mais on ne va pas se mentir. Quand un comédien vient pour faire la promo d'une série, ils ont tourné bien avant.
Oui. Non, ça, c'est vrai, je ne m'en souvenais pas. Donc, ben voilà, vous avez dit les raisons. Moi, je crois que c'était par rapport au soleil et tout ça. Parce que si on fait allusion à tout ça. Et donc, c'est dans des lieux magnifiques. Donc, non seulement le téléspectateur, il est cueilli par l'histoire qui est vraiment haletante, et en plus les lieux sont superbes.
Je vais parler des lieux après, juste d'accord, un mot de toute la famille. Vous êtes le seul à avoir un espoir de trouver la petite Clara, avec sa sœur et donc votre fille, on va pas se mentir, on va la retrouver, la Clara, vu que c'était dans les épisodes 1 et 2 qui sont passés mardi. On va faire faux suspense.
Bien sûr.
Ce mardi, ce sera donc les épisodes 3 et 4, et je précise que ça a bien marché. Vous êtes arrivé, vous connaissiez les chiffres d'audience.
Oui, 976 000 spectateurs. Je crois qu'on a tutoyé le million.
Ouais.
Et donc, je sais qu'ils sont très, très contents. C'est leur première série de fiction.
Non, pas du tout. Pas c'est du leur tout. Deuxième, je vais vous dire. Ils ont fait 4... Mais c'est encore mieux que ce que vous croyez, Antoine Duléry, puisqu'ils ont fait le million, 4,3% de part d'audience. Et si on compare aux grandes chaînes, c'est peu, mais pour la TNT, c'est vraiment très
énorme.
Bien. D'autant que la première et la précédente série originale commandée par C8, qui s'appelait Access, n'avait réuni que 670 000 téléspectateurs et seulement 2,9% de part d'audience.
Ah ouais, donc nous,
faites vraiment mieux.
Non, en tout cas, ils étaient très très contents.
Ouais.
Cyril Hanouna m'a appelé pour nous féliciter et on est très contents de ce succès parce que j'aime beaucoup la série qui est réalisée par un mec formidable qui s'appelle Christophe Douchamp. Voilà, il faut le citer.
Et dites le rapport avec Cyril Hanouna.
Le rapport, c'est qu'il est producteur de la série.
Voilà, la première série faite par H2O, la boîte de prod d'Hanouna.
Voilà, donc il était très heureux de que je fasse le film et très heureux de m'annoncer les bonnes nouvelles. Voilà.
Vous êtes très sollicité, vous n'avez pas besoin de la TNT pour vivre. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet ? Pourquoi vous avez dit oui ?
Ben d'abord, retrouver Douchamp, avec qui j'avais fait Crime Parfait il y a quelques temps sur la 3, qui est vraiment un metteur en scène que j'aime énormément. Et puis l'histoire, et puis je jouais ce rôle de... Vous savez, un scénario, c'est un scénario, puis il y a tout ce qu'il y a autour qui m'intéresse. Donc je savais que ce serait Nadia Farès, que j'aime beaucoup, je suis copain avec elle dans la vie, hein, vraiment. Lannick Gottry, qui est formidable. Moi je regarde avant tout avec qui je vais jouer, le personnage... le réalisateur, pour moi, c'est très important. J'aime beaucoup l'harmonie au sein d'un film et c'est ça qui m'a plu, évidemment, le rôle. Et de faire un rôle de composition, de faire le papa de Nadia Farès avec 9 ans de plus, c'était rigolo.
Oui, comment on fait alors ?
On met une grosse fausse barbe et on essaie
de faire croire qu'on est vieux.
Ouais, et puis on essaie de jouer un peu plus.
C'est ça, je me suis dit, franchement.
Et ça m'amusait beaucoup parce que j'avais jamais fait ça. J'avais jamais fait le vieux.
Je me suis dit, il a pris un coup de vieux, Antoine Duléry, je vous jure, c'est vrai.
Ah, mais c'est vrai. Ma femme m'a vu, elle m'a dit, putain, j'ai eu les boules, j'ai l'impression que t'avais 80 piges.
Ouais. Ceci dit, comme ça, elle vous voit dans un certain temps.
Ouais, mais c'est vrai qu'elle avait pas vu elle était pas venue sur le tournage, donc elle a vu comme tous les spectateurs, et là, putain, la gueule que tu as là, quand même, ça fait truc. Non, c'est amusant, mais j'adore ça, moi, j'adore me déguiser, j'adore faire commissaire à la rivière, vous le parlez, puis de faire faire dans la même journée La Rosière et puis Camping, mettre un slip jaune et faire une tête de con et faire c'est Paolo Giatino, et puis le lendemain faire un mec très chic et puis voilà faire une fausse barbe. Moi j'adore ça, c'est la composition qui m'amuse.
Ouais, d'autant que quand vous faites le mec très chic, ça vous empêche pas de garder le slip.
Mais bien sûr que non, je le garde en dessous et personne ne le voit.
Alors c'est un film choral, une dizaine de comédiens, vous êtes peu présents dans les 5 premiers épisodes.
Oui.
Et faut attendre le 6e et dernier pour vous voir davantage, mais malheureusement, c'est une question débile puisque on peut pas spoiler ce qui se passe.
Ben non, non, c'est pour ça, le personnage effectivement n'est pas central, mais il est très important puisque c'est encore une fois le patriarche. Mais j'ai aussi moi-même un père qui est formidable aussi, qui s'appelle André Oumoski.
Ah, il est incroyable ce père.
Est formidable.
D'où il sort?
Ah ben André Oumoski, il a fait une grosse carrière au théâtre. Et
je
ne
le connaissais pas, je ne vais pas vous mentir, il
a fait beaucoup de films, il a un très grand, un rôle assez important dans Les Félins avec Alain Delon il y a très longtemps. Et effectivement, il joue mon papa, donc il y a un vrai truc choral, j'avais mon papa, moi, mes filles, mes enfants, etc. Il y a un côté un peu le parrain. Tu vois, le parrain met sous le soleil de, étincelant de la Méditerranée.
Quand il y a un reportage sur une entreprise douteuse et qu'un jour on voit le patriarche, eh ben c'est ce type-là.
Ouais,
on ne dirait pas que c'est un comédien, on dirait qu'il est vraiment le patriarche.
Eh ben c'est le plus beau compliment qu'on puisse le faire, parce que c'est un type, encore une fois, qui a fait énormément de choses.
Alors j'ai lu quelque part que c'était une saga d'été, sauf qu'il ne la diffuse pas pendant l'été.
Oui, c'est bizarre.
Vous avez tourné, vous l'avez dit, en Provence, au-dessus de Marseille.
Ouais.
Les conditions de tournage, c'était comment? C'était agréable ou très agréable?
Ben non, c'est du travail quand même, on n'est pas là.
Non, parce
c'est
que
pas
parce les que... villas,
non, mais c'est agréable,
j'en ai jamais vu des comme ça, franchement.
Ouais, non, non, c'est sublime. Non, c'était très agréable, les lieux étaient superbes, ils faisaient magnifique.
Mais franchement,
quand on rentrait le soir, bon, c'était cassis, tout ça. Non, il y a eu des moments très. Et puis vraiment une très très belle ambiance. Moi, c'était un peu plus dur pour moi parce que j'avais cette fausse barbe. Et je peux vous dire, quand
ça
fait très 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 chaud, c'est dur. On est obligé de me recoller toutes les 30 secondes. Donc c'est un petit peu chiant parce que je faisais tout le temps les maquilleuses et c'est pas de leur faute qui sont. Attends, bouge pas. J'en ai un peu chié, moi, avec la fausse barbe.
Et vous habitez dans les villas ou pas? Parce que je vais dire aux gens.
Non.
Les relais et châteaux. À côté des villas dans lesquelles ils sont,
ah, c'est sublime.
C'est le guide du routard.
Ah ouais, c'est
franchement,
sublime. Sur les hauteurs de Marseille, c'est ça?
Oui, les hauteurs de Marseille, La Ciotat, Cassis, enfin tout ça. Et c'est vrai que ce sont des endroits miraculeux. Et effectivement, il y a des baraques. Non, non, on dormait pas là, on dormait dans des petits hôtels avec des araignées, des rats.
Au Formule 1.
Je prends pas, même pas au Formule 1. Non, non, on était dans des beaux hôtels, mais pas ceux-là. Pas ces maisons, parce que ce sont des maisons privées qui sont louées pour les tournages.
À ma connaissance, c'est la première fois que ces maisons ont été utilisées pour des tournages.
Il y en a une, effectivement, c'est la première fois qu'ils la louaient, parce que c'est un sacré investissement de louer, enfin investissement financier, mais c'est un grand bordel quand les gens arrivent comme ça, il faut tout partir, donc il faut vraiment avoir une équipe qui soit soigneuse.
Surtout quand t'es chez toi et qu'il y a un vieux qui râle parce qu'il y a sa barbe qui le gratte.
Il a ses bouts de barbe.
T'as plus envie de louer après.
Un vieux, c'est normal, je suis un peu vieux, je suis vieux comme disait Michel Simon. Enfin, je ne suis pas vieux, je fais semblant d'être vieux.
Il y aura une saison 2.
J'espère parce que c'est
ils ont
parti.
Dit si ça marche, il y en aura une.
Ouais, donc c'est bien là... parti. J'ai l'impression que évidemment, c'est pas encore dans les tuyaux, etc. Mais je pense que si ça marche, oui, parce que c'est une série qui permet vraiment dans l'histoire de faire une saison 2. Et vu le gros succès qu'on a en ce moment, il y a pas de raison qu'on la fasse pas. Moi, je suis totalement. Et là, je ferai le. Si on fait la suite, je ferai. J'ai demandé par contre quelque chose. J'ai demandé à faire le fils de Nadia Farès. Mmh.
Ce qui correspond plus à votre âge, finalement.
Voilà, donc je vais me mettre en culotte courte. J'aurai 15 ans et je serai un petit
avec
garçon
barbe.
Sans barbe. Non, justement, je n'aurai pas de barbe. Donc je vais enlever tout et je vais faire un petit garçon de 15 ans. Ça me plaît énormément.
Antoine Duléry, plus jeune que jamais, juste après ça avec nous.
18h, 20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
19h36, on vous retrouve, Philippe Vandel, entouré de vos chroniqueurs et de votre invité.
Merci d'être avec nous, la suite de cette demi-heure culturelle avec notre invité Antoine Duléry, comédien à l'affiche des Ombres Rouges, c'est sur C8. 2 épisodes ce mardi et encore les 2 derniers épisodes mardi prochain. Vanessa est avec nous, Nicolas Carreau et Mathieu Charrier, on va parler de cinéma avec vous. Mathieu, ce soir, c'est le film Rebelle que vous nous conseillez.
Oui, qui est un petit film de genre français porté par des femmes, c'est suffisamment rare pour que ça vaille le coup de le découvrir. En plus, c'est un super film. Alors l'histoire, on est dans une usine de reconditionnement de macros, vous voyez l'ambiance. Les femmes, parce qu'il y a surtout des femmes qui y travaillent, sur la chaîne de production, et vous savez, cette tenue bleue adéquate, la petite Charlotte. Et on a 3 employés, Yolande Moreau, Audrey Lamy et Cécile de France, sous le joug d'un chef faillant, vous savez, qui est bien insupportable, qui use et abuse de son pouvoir, si bien qu'un soir, il tente de violer Cécile de France. Elle se défend et lui claque la porte du vestiaire sur l'entrejambe, ce qui lui sectionne littéralement le sexe. On le voit à l'écran, c'est assez particulier.
On le voit à l'écran,
c'est très bien fait. L'homme meurt.
Et ça vous fait rire.
Est-ce que c'est assez drôle? Sur le moment, dans la salle, quand vous êtes en projection, tous les hommes font. C'est forcément.
Les filles applaudissent.
Et les filles se marrent, elles plutôt. Elles se rendent compte qu'il a un sac de sport rempli de billets de banque. Elles s'en emparent, évidemment, c'est le début des ennuis avec notamment des trafics en drogue extraits.
T'es vraiment canon, tu sais.
Donnez-moi mon sac!
Il y a combien là-dedans?
Il est mort.
Bon, on a bien vu, merci. Le problème, c'est qu'il faudrait le sortir d'ici.
On peut le sortir petit à petit, hein. Bah quoi ? C'est notre boulot de faire des boîtes. Jean-Mi ou un macro, c'est pareil, non ?
Voilà, donc Jean-Mi ou ce qu'il en reste va sortir conditionné dans des boîtes de macro. Ça vous donne une idée de l'humour et de l'ambiance qu'il y a dans ce film. Ce sont des références faciles, hein. Il y a du Tarantino pour le côté un peu gore. On est aussi dans le cinéma social parce que ces femmes, au départ ouvrières, elles n'ont pas une vie facile, elles galèrent un peu. Mais c'est surtout un film débridé, jouissif, comme on en voit trop peu en France, à mon avis.
En fait, l'ai vu et tout ce que vous dites est très vrai.
Ah, c'est déjà bien. Vous m'auriez dit l'inverse, j'aurais été gêné.
Non, c'est un film très drôle que j'ai vu hier, donc je peux en parler. Et c'est un film effectivement très débridé, très déconnant, et c'est formidable d'avoir des vents de folie comme ça dans le cinéma français.
Voilà. Si vous nous prenez en cours de route sur Europe 1, c'était la voix d'Antoine Duléry. Alors moi, j'ai pas vu le film, mais j'ai une question. Film sur les femmes qui se rebellent, joué par des femmes, on voit le truc, ça fait film post-affaire MeToo, votre histoire.
Alors oui mais non, parce que Cécile de France le résume assez bien, elle dit que c'est un film féminin, mais pas féministe. Je trouve que c'est bien dit, écoutez-la, aux côtés d'Audrey Lamy.
Il n'y a pas de discours, il n'y a pas de jugement, on refait des reproches à personne. C'est juste que là, il se trouve que les héroïnes, au lieu que ce soit des héros, ce sont des femmes. Voilà, et elles prennent leur destinée en main, et voilà. Et dans ce monde masculin très dur, elles utilisent des armes, leurs armes aussi de femmes, et elles s'en sortent super bien.
Ce qui est chouette, c'est quand on a un réalisateur qui se dit « Ah tiens, en fait, cette histoire, j'ai vraiment envie que ce soit des femmes qui la fassent. » On aime avoir un flingue dans la main, on aime buter des gens. On a envie de baston, nous.
C'est le peu de le dire, parce que...
Des cours de tir, on a envie de faire des cascades, des fusillades, on adore ça, et toutes les nanas adorent ça.
C'est vrai que les comédies françaises, bon, c'est toujours un peu bobo, un peu propret, dans des beaux appartements. Là, voilà, on est à l'usine, on est sur les docks, à Boulogne-sur-Mer. C'est avant tout une comédie.
Voilà, on est vraiment dans la comédie noire. Il y a du western aussi, avec ce sac de fric qui se balade, qu'on enterre dans les bois, tous ces anti-héros, les gentils comme les méchants, une intrigue, de la bagarre. Franchement, c'est un bon moment de cinéma, divertissant. Et surtout, rien que pour voir Yolande Moreau tirer dans tous les sens, je vous le dis, ça vaut le coup, Rebelle. C'est donc réalisé par Alain Mauduit.
Vous dites un film de femme et je me tourne vers Antoine Duléry. Le petit reproche qu'Allociné a fait à votre série Les Ombres Rouges, c'est que les femmes qui ont des rôles importants, Nadia Farès, elle travaille à la police, elle est enquêtrice, mais ont des rôles rattachés aux hommes, des rôles de soumises. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Qu'elles sont sous le joug de leur mari. Il y en a une qui est trompée, il y en a une qui est cocu, il y en a une qui est abandonnée.
Ouais, mais j'ai vu que les deux premiers épisodes. Vous
d'accord.
Savez, Philippe, j'ai tourné ça il y a longtemps. Bah peut-être, je sais pas. Non, je trouve. Enfin, quand j'ai tourné le film, j'avais pas du tout l'impression parce que ce sont des filles, ce sont des actrices qui ont un tel tempérament, j'avais pas du tout cette impression-là. Parce qu'entre Manon Azem et Nadia Farès, je peux vous dire que ça déménage aussi. Hein. Alors, c'est pas dire... rebelle, mais elles ont du caractère, les filles.
Hein. Moi non plus, mais je me suis dit tiens, ça va faire une bonne question.
Oui,
alors sinon,
c'est une bonne question. D'ailleurs, je vais vous répondre, Philippe. Vous répondez à votre question. Hein.
Mathieu Charrier, d'un mot, vous voulez conseiller à nos auditeurs un festival, le Festival du cinéma indépendant de Valenciennes.
Oui, parce qu'il commence mardi, c'est du 19 au 24 mars. Il rendra hommage notamment à Jean-Pierre Jeunet, formidable Jean-Pierre Jeunet. Il y a plein de films à y découvrir. Formidable. Donc si vous êtes dans le coin, allez-y, allez consulter le programme sur Internet. Il y a de très bons films qui seront projetés, c'est l'occasion.
J'y suis allé.
Ah, vous voyez ?
Pas là, hein, parce que je ne suis pas allé à tout, mais c'est vachement bien à Valenciennes. Ouais. C'est une ville qui vit énormément et ce festival est formidable. Et Jean-Pierre Jeunet, évidemment, lui aussi a fait des films tellement originaux qu'il faut lui rendre hommage.
Et Jean-Pierre Jeunet, il n'est pas un bon scénariste, Antoine Duléry ?
Il a un très bon scénariste, il s'appelle Guillaume Laurent.
Oui, et avec qui ?
Avec lequel j'ai écrit mon premier long métrage.
Ça va être ma question, vous en êtes où ? C'est le hasard.
Effectivement, Guillaume Laurent, qui est un grand scénariste, j'ai écrit avec lui mon premier long métrage, qui j'espère va se tourner dans les mois qui viennent. Voilà, je suis
vous
produit.
Vous en êtes où ?
Ben, je suis.
Il écrit, vous avez le financement ?
Voilà, pas encore le financement. J'attends le retour sur une dernière version des producteurs.
C'est quoi le thème ?
Qui sont Romain Legrand, etc. Le thème, on en reparlera. Je peux juste dire. C'est juste que c'est sur l'abus de notoriété et sur le regard province un peu méprisant de Paris sur la province. Voilà. Wow. Mais c'est une comédie cynique, un peu à l'italienne et en même temps touchante et qui, je crois, me ressemblera. Voilà.
Ce regard un peu méprisant de Paris sur la province, je précise
c'est
que vous l'avez écrit.
C'est un regard un peu.
Non, hein, c'est pas ça.
Que... Je vais vous dire, hein, monsieur Vendée.
Moi, je suis né à Grenoble et ensuite j'étais à Lyon. Mais évidemment. Mais je me suis dit. Enfin, c'est un compliment que je vous fais, c'était avant les Gilets jaunes. Parce que c'était un des grands reproches faits sur les ronds-points, c'était ce regard d'en haut de Paris vers les régions.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Et alors là, c'est un personnage qui vient de province, effectivement, dans une agence immobilière. Enfin voilà, il travaille là et les mecs se foutent un peu de sa gueule gentiment. Et puis d'un coup, il va connaître une star et le regard des autres va changer. Et c'est ce que c'est idiot, les hommes sont toujours comme ils sont. Ce sont des tournesols. Ils sont attirés vers les choses qui brillent et ils sont prêts à dire parfois n'importe quoi.
Et
je découvre que Nadia Farès a accouché d'un enfant qui me ressemble avec une barbe. Et donc d'un coup, on voit des ombres rouges et on se dit qu'est-ce que c'est que ce petit bonhomme ? Ce petit bonhomme, c'est moi.
Antoine Duléry, l'abus de notoriété, ça se manifeste comment ? Donnez un exemple.
Ben vous le savez, Philippe, parce que vous êtes l'exemple de la notoriété. Quand je vois comment vous traitez votre équipe, je vais vous dire, monsieur Mandel, c'est une honte. C'est indigne de la France. Non, mais l'abus de notoriété, on a toujours ça. Des gens qui se collent un peu avec des gens plus connus qu'eux, et puis ça se retourne contre eux parce que les gens les utilisent.
Ouais. Comme disait La Rochefoucauld, pas de grand homme pour son valet de chambre.
Où en est votre. Pas de grand homme pour son valet de chambre, c'est très joli ça.
C'est beau, hein. Oui. Quid de votre one-man show ?
One-man show,
il existe toujours ?
Oui, j'ai joué beaucoup, et là je repars. J'ai fait une grosse tournée il y a 2 ans, je ne sais plus. Et là, je repars en tournée, donc je suis à nouveau dans toute la France. On peut voir ça sur Internet.
Mais non, mais il y a encore d'autres actus.
Et donc, je suis ravi de reprendre ce One Man Show que je joue depuis maintenant quelques années, mais qui se passe très bien. Je rends, comme vous le savez, mon cher Philippe, hommage à tous les acteurs qui m'ont fait à travers ces imitations. Mais je préfère parler d'évocation.
Et vous deviez tourner cet été un coup de chapeau avec Jean-Paul Belmondo, c'en est où ?
Oui, alors ça, c'est... ben voilà, c'est terminé, malheureusement, comme disait Lorient. À Lorient, l'indolence ou la cruauté, moitié loukou, moitié sigu, en quelque sorte, le Coran alternatif. Ce film ne se fera pas, mon cher Philippe.
Ah mince, je ne savais pas.
Non, on ne se fera pas, pour plein de raisons que je ne peux pas énumérer ici, mais ça ne se fera pas.
Je vais dire ce que je savais.
C'est pas grave, on fera autre chose, on va peut-être se retrouver sur le prochain film de Claude Lelouch, Itinéraire d'un enfant gâté, bis 2, qu'il veut écrire pour Richard... Et Anconina, Jean-Paul, et il m'a parlé évidemment, Claude m'a dit que je ferais partie du film. Donc on va certainement se retrouver, j'espère, avec Jean-Paul sur le film. Mais le coup de chapeau, on l'oublie.
On est avec Antoine Duléry, bis, 2 et même terre, juste tout de suite après ça.
19h45, on continue à parler culture avec vous Philippe Vandel.
La demi-heure culturelle de ce 18-20 avec Antoine Duléry qui est multiple. Il est là ici pour nous parler des ombres rouges, mais pas seulement, avec toutes les voix qu'il a en stock. Vanessa Zah est avec nous, Mathieu Charrier avec nous et Nicolas Caro qui est sorti de sa bibliothèque. Cette semaine, on n'a pas lu un roman, mais des histoires incroyables et vraies.
Oui, dans le livre de Philippe Charlier et David Alliot, Autopsie des morts célèbres chez Talendier, le docteur Philippe Charlier, un petit surnom dans le métier, très sympathique, on l'appelle et il s'appelle lui-même le médecin des morts. Et sur les réseaux sociaux, docteur Trottard, puisqu'il est médecin légiste.
C'est drôle.
Il est aussi directeur du département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly quand même. C'est un sérieux, c'est aussi un passionné d'histoire et il s'est fait une petite spécialité. Autopsier les grands personnages de l'histoire, on appelle ça la paléopathologie, la médecine légale appliquée aux cadavres anciens, en l'occurrence des vedettes de l'histoire, de Lucie l'Australopithèque à Hitler.
Alors on va commencer par notre ancêtre.
Oui, Lucie donc, je rappelle, mais vous connaissez ça par cœur, on l'a trouvée en 1974 en Éthiopie, elle vivait il y a 3,5 millions d'années, c'est le plus vieux pré-humain bipède et en répertoriant les ossements, l'équipe de chercheurs, écoutez ça. Lucie. Voilà pourquoi on l'a appelée Lucie, tout le monde sait ça. Depuis, on s'intéresse à sa vie, on l'étudie à l'école, mais on s'était pas posé la question de sa mort. Et en 2016, un chercheur américain a émis l'hypothèse selon laquelle elle serait tombée d'un arbre, parce qu'on constate effectivement que le bras a été fracturé en de multiples endroits, une chute de 12 mètres
de
quand
12
même.
Ouais. Pas 10, pas 14, 12.
12 mètres, on le sait, à cause des fractures et tout ça. Le docteur Charlier et Yves Coppens sont repris l'enquête parce qu'ils trouvaient ça bizarre, et ils se sont dit que d'abord, l'endroit où on a retrouvé Lucie correspondait à un glissement de terrain. Peut-être a-t-elle été entraînée dans une coulée de boue, en fait, et son bras se serait cassé par torsion, c'est possible. Par ailleurs, on observe 2 traces de crocs sur son bassin. Peut-être a-t-elle été mordue par un ou plusieurs crocodiles. Au passage, on n'a pas retrouvé la totalité du corps de Lucie. Qu'est-ce qui explique cela ?
On a envie d'en savoir plus. Il y a qui d'autre comme mort célèbre dans ce livre ?
Alors, on saute quelques chapitres et quelques millénaires pour s'intéresser au cas très intéressant de Marie-Madeleine, Marie de Magdala, celle de la Bible, la disciple de Jésus. Ça m'a intéressé parce qu'un jour, je me baladais. J'étais en vacances dans le sud et je suis passé.
C'est vrai, pardon.
Écoutez,
c'est vrai que la mère de Jésus,
voir,
c'est pas important. En fait, t'es passionné parce que t'es dans le sud et ça t'intéresse.
Écoutez,
comme ça,
à Saint-Maximin, la Sainte-Baume.
Dingue,
magnifique.
On peut arrêter là l'émission, c'est tellement passionnant.
Et
vas-y,
je passe devant une église et je vois une crypte. J'adore visiter les cryptes. J'y vais et avant, il y a un petit panneau qui indique éventuellement, peut-être, c'est possible que Marie-Madeleine soit inhumée dans cette crypte. Donc ça m'a beaucoup amusé, cette prudence de l'Église. Et Charlier, lui, il est allé voir le docteur Charlier. Il a même fait un scan, des relevés, un double numérique du crâne. Et il s'agirait effectivement d'un crâne féminin, de type méditerranéen, cinquantaine d'années à peu près. Donc ça pourrait correspondre. Il reste encore beaucoup d'analyses à faire pour être sûr. Mais ils ont réussi à reconstituer informatiquement le visage de Marie-Madeleine à partir des ossements. Le visage avec la peau et tout, et les cheveux. Hein.
Ouais,
et c'est sûr, on peut le voir sur Internet, c'est bluffant comme image, on a l'impression de la voir en vrai. C'est très bizarre. Ils avaient fait le coup aussi avec Henri IV il y a plusieurs années.
Qui avait un grand menton, je me souviens.
C'est la même technique. Alors il y a ces cas particuliers de vedettes de l'histoire, mais les chapitres alternent aussi avec l'évolution des pratiques de la médecine, de l'invention des hôpitaux, des hospices. On apprend énormément de choses. Et puis donc, on s'intéresse aussi à Descartes, à son cerveau, à Saint-Louis, même à Hitler, dont une partie de la mâchoire est conservé à Moscou. Et à chaque fois, ça se lit comme une enquête policière. C'est passionnant.
Ça me donne envie de le lire.
Autopsie, où est ce livre ? Autopsie des morts célèbres, donc. Merci Nicolas. L'éditeur ?
Oui, l'éditeur.
C'est Talendier.
Talendier,
très bien. Eh ben, je vais l'acheter.
J'adore, c'est vrai ?
J'adore ces histoires.
Et
j'avais acheté un livre sur les morts célèbres, les derniers mots des morts.
Ah oui, les derniers mots, M-O-T-S.
Et il y avait un mot magnifique de Maurice Donnet, qui était un type très drôle. Et il est mort, et c'est vrai, hein, il est mort en disant à sa femme, qui était à son chevet, je suis triste, ma chérie, parce que, quoi, je n'ai pas réussi à les réconcilier. Alors elle a dit, mais qui est mon chéri ? Les œufs brouillés. Il est mort. Mais les mecs étaient prêts à mourir pour un bon mot. Guitry, il est pratiquement mort. Mon infirmière lui dit, vous voulez que je vous change vos draps ? Il était très mal. De soie, de fil ou de coton. Il a dit, non, de lin seul. C'était extraordinaire. Wow. Non mais c'est vrai, les mecs étaient prêts à faire un bon mot pour.
Et vous connaissez le fameux dialogue de Guitry et Yvonne Printemps, qui était sa femme.
Bien sûr.
Racontez-le, c'est mieux si c'est vous.
On dit que Guitry n'était pas très vaillant au plumard, et puis elle, par contre, Yvonne Printemps, qui était partie avec Pierre Freinet, ce qu'il avait mal vécu, elle était considérée comme assez volcanique.
Elle est un peu déçue du coup de son couple avec Guitry.
Oui, un peu déçue. Guitry lui dit, sur votre tombe, je mettrai quand vous serez morte enfin froide. Et elle lui a répondu, eh ben moi, sur votre tombe, je mettrai enfin raide. Alors, il y a une très jolie carène à voir que j'ai lu dans mon spectacle, c'est Bernard-Henri Chaux, grand auteur de théâtre, et Winston Churchill, qui dit, il ne pouvait pas se blairer. Et Bernard Chaux envoie un télégramme à Churchill en disant, voilà, j'ai deux places pour ma première ce soir, venez avec un ami, si vous en avez un. Et Churchill lui a répondu, je ne peux pas venir ce soir, je viens à la première, je viendrai à la deuxième, s'il y en a une.
On peut dire votre âge ?
Bien sûr.
Vous êtes 59.
Et j'ai 59 ans.
Et j'ai peine à croire que vous avez travaillé avec des monuments d'une autre génération, voire de deux, puisqu'on parlait des disparus. Vous avez travaillé avec Jean-Louis Barrault,
oui.
Jean Marais.
Oui, dont je parle dans mon spectacle.
Il était comment, Jean Marais ?
Génial. Alors je vais vous raconter une toute petite anecdote que je raconte dans mon film, oui, si je puis dire. C'est que la première fois qu'on rentre sur scène, il avait juste avant, il faisait très chaud, c'était au mois d'août, et il jouait Don Diego, un rôle très sérieux, il avait un petit ventilateur. Et on allait rentrer sur scène. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ce ventilo ? Bon, question un peu idiote, mais enfin bref. Il me dit, écoute, il fait tellement chaud. Alors, je me le fous dans le cul, puis je m'envole. On m'appelle Maya l'abeille. Et il est rentré sur scène.
Voilà.
Il était drôle, intelligent, hyper sympathique, très courageux. C'était un mec que j'adorais.
Va enchaîner après ça. Vanessa Zah.
Oui, merci.
Rebonsoir, vous êtes allé faire un tour.
Bonsoir.
Au Salon Mondial du Tourisme, vous êtes revenu avec vos valises remplies d'idées de voyage.
Ouais, j'ai même eu du mal à toutes les faire rentrer, donc j'ai dû faire un choix. Je vais vous parler des nouveaux concepts qui ont le vent en poupe, dont certains qui sont insolites comme celui-là. Alors, est-ce que l'un d'entre vous autour de cette table a déjà surfé sous des aurores boréales en Norvège ?
Non.
Partager le quotidien d'éleveurs de rennes mongoles.
Toujours ça, par contre.
Oui. Tous les week-ends.
Boxer avec un professionnel en immersion dans les forêts du nord de la Thaïlande.
Non.
On fait une course à dos d'autruche en Afrique du Sud.
Non.
Ça ou même courir avec des athlètes éthiopiens. Enfin, ça, vu votre physique, je ne crois pas, non ?
Non.
Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tente, au moins, les garçons ?
Non,
Ce qui me tente, c'est de savoir comment vous allez vous en sortir.
Vas-y.
Moi, je peux répondre, Vanessa. Le mec, il ne peut pas s'empêcher de faire Sarkozy. J'adore le faire, surtout la radio. Moi, j'adore là. Je suis allé en Finlande, j'ai vu des aurores boréales.
C'est magique, ça danse dans le ciel.
C'est magnifique. Et donc, j'y retournerai bien. Je ferais bien un petit saut avec vous là-bas.
Un petit saut en surf ?
Non, mais juste un chien saut. De traîneau.
Un chien de traîneau,
vous
chien traîneau. Très bien.
Vous avez déjà fait du chien de traîneau là-bas ?
Oui, là, il y a un mois et demi d'ailleurs.
Alors, c'est génial, parce que vous savez, juste avant de partir, ils sont comme ça. Il y a une meute. Alors t'entends...
Oui, parce qu'en fait, on ne leur donne pas à manger pendant 24 heures pour les motiver à partir.
Et après, ils ne disent plus un mot.
Voilà.
Et dès qu'ils s'arrêtent...
Vous le faites bien. Vous êtes toujours sur Europe 1.
C'est génial. Et Antoine Duléry, j'adore vos anecdotes. Vous savez qu'à 20h, on va parler foot. Donc il faut.
Alors, la foot, hein,
foot, je suis moins
Vanessa,
bon.
Je suis moins bon en foot.
Non, tout ça pour vous dire. Voilà, cette nouvelle agence, elle s'appelle Odysse, ouais. Et elle propose en effet des séjours atypiques, mais qui sont basés sur l'expérience, sur votre expérience. Et ça, c'est une vraie demande aujourd'hui. Parce que le luxe, il n'est plus dans le 4 ou le 5 étoiles. Il est vraiment dans la demande de vivre quelque chose de singulier, de marquant, quelque chose de fort. Et moi, ce que j'aime bien donc, chez Odysse, ouais, c'est qu'ils ont une offre assez limitée. Ça va jusqu'à entre 10 et 20 en ce moment. Séjour possible, mais c'est surtout c'est très quali et ils ont une démarche responsable et solidaire, puisque 10% en fait de leurs bénéfices sont reversés à des associations, des ONG du pays qui est visité.
Et c'est hors de prix ?
Non, ça va de 500 à 1000 euros. Donc moi, je trouve ça quand même, je trouve ça sympa.
Ah non, vraiment ? Voilà. Autre tendance ? Autre nouvelle tendance ?
Alors, c'est pas une nouvelle tendance, mais elle se confirme vraiment, c'est le voyage engagé qui prend de plus en plus de place dans le cœur des Français. On a besoin de trouver du sens à nos déplacements. Et pour ça, je vous conseille de vous rapprocher de TWAM, c'est T-W-A-M, pour faire du TWAMing. Ouais. Donc TWAM, ça veut dire Travel with a Mission. C'est une organisation internationale à but non lucratif qui vous permet d'être soit acteur soit observateur pendant en fait votre voyage. Donc si vous êtes acteur, vous vous proposez volontaire, vous êtes encadré dans l'un des 39 pays au choix. Et donc là, vous avez le choix de vous engager ou dans de l'animation sportive, musicale ou culturelle, mais aussi de la construction, de la réhabilitation, de la santé, de l'enseignement. Et sinon, vous pouvez être observateur, c'est-à-dire que vous avez envie de connaître et de comprendre le monde, ses défis. Et donc là, ils vous proposent des TWAM trips pour, par exemple, comprendre les croyances avec les religions en Inde ou les défis socio-environnementaux en allant à Bali, ou bien vous dans des peuples autochtones, des communautés indigènes au Panama. Voilà, donc est-ce que vous vous sentez toimé, Antoine ? Est-ce que vous voyez faire ce genre de choses ou pas ?
Oui, c'est intéressant. Je pense que les voyages les plus intéressants, c'est ce qu'on fait à travers les films, souvent, parce que je trouve qu'on découvre quand on travaille, bizarrement, le tourisme pur, c'est sympa, mais c'est un petit peu...
On s'est dépassé, c'est galvaudé maintenant.
On s'emmerde un peu. Alors là, quand on va... Moi, je sais, quand je tourne un film, j'ai été au... dans des pays parfois lointains, et très vite je m'intéresse aux gens, enfin, c'est ça qui est intéressant.
Et on voit c'est vraiment, la rencontre.
On voit, c'est la rencontre, et ça quand on est touriste, on ne le voit pas forcément. Donc je suis très intéressé par TWAM.
D'un mot Vanessa.
Alors justement, on parlait de rencontre.
Puisqu'il est intéressé par TWAM, le salon se termine quand ?
Le salon se termine demain soir, donc si vous avez le temps, allez-y, parce que justement c'est une rencontre d'aller voir les gens qui font maintenant du voyage sur mesure,
mais
aussi tous les blogueurs qui sont là pour vous donner leur coin secret.
Bien sûr.
Et puis demain matin, vous faites quoi Antoine ? Vous êtes prêt ? Vous venez avec moi ou pas ?
Demain matin, je tourne toute
la journée. Dommage, mais je voulais vous proposer de partir voir les fameux Nus et culottés, je sais pas si vous les connaissez, cette fameuse série qui cartonne.
Oui, je sais.
Où ils vous apprennent à voyager donc sans argent, donc nus. Et voilà, ils seront là demain, éculottés. Donc c'était une manière de faire revenir Polo.
Oui, Polo Gatineau, j'aurais été pratiquement nu. Ah oui, je suis nu d'ailleurs dans le numéro 2.
Mais allez-y parce qu'ils vont vous apprendre à voyager avec un minimum d'argent.
Merci beaucoup Vanessa.
Merci Vanessa, on se retrouve juste après une page de pub.
Merci Nicolas Caro, merci Mathieu Charrier. Non, ça va être le foot après. Merci Antoine Duléry d'avoir été avec nous. Ça s'appelle Les Ombres Rouges et c'est mardi sur C8.
Ouais.
Merci encore d'avoir été avec nous.
Merci infiniment.
Europe 1.
Évidemment, dans un instant sur Europe 1, vous allez retrouver le foot Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau. Salut Lionel.
Salut Philippe.
Quel programme alors ce soir ?
4 rencontres de Ligue 1 ce soir. Enfin, on arrive à remplir un petit peu notre escarcelle, mais surtout avant le Classico de demain entre Paris et Marseille.
Moi j'attends ça.
Le Dramatico ce soir. Guingamp face à Dijon, le 20e reçoit le 18e.
Oh, vous l'avez inventé celle-là, j'adore le Dramatico.
Marque déposée.
C'est magnifique. Nous, j'espère qu'on va faire le flamboyau. On se retrouve demain. Le flamboyau, c'est-à-dire que c'est flamboyant. Ça ne veut pas dire qu'on va sortir les boyaux, quoique. On sera avec Marlène demain
la
à 18h.
Marlène.
Bonne soirée à l'écoute d'Europe 1, flamboyante et modeste. À demain.